Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, c'est un mag et l'on va revenir comme d'habitude sur l'actualité de votre discipline préférée. Pour m'accompagner ce soir, nous serons trois, hein. Bonjour Fab.
Bonjour.
Bonjour Gus.
Bonjour.
Ça va? Passez une bonne semaine?
La joue encore blasée, Fab, ou pas?
Ben non, tout va bien.
Excellente semaine.
Je suis heureux. Je me sens comme un pneu Pirelli. Un peu délaminé, mais tout va bien.
Pour tout vous dire, hein, on avait prévu, hein, Dino devait participer avec nous, mais malheureusement, là, sa connexion dans sa campagne, hein, faut le dire. Hein,
il a des problèmes à laine, on va dire.
Ouais, il a des problèmes à laine.
C'est pas mal, ce ta-gueule permanent, mine de rien. Ça...
oui, c'est...
On a eu raison de l'instaurer, je pense.
C'est rafraîchissant, ouais. Messieurs, bah, comme à chaque mag, on va commencer par un petit quiz.
Allez.
Le service après-vente de la F1... vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Alors cette semaine, c'est moi qui vais poser la question. Peut-être aurais-je de nouveau un ta gueule injuste, comme la dernière fois.
Ouais, vraiment incroyable, quoi.
C'est dégueulasse. Et c'est une question simple. Qu'est-ce qui va arriver à Monaco jeudi?
La pluie?
Peut-être, mais ce n'est pas ça.
Vu tout ce qui tombe sur la Côte d'Azur en ce moment.
C'est un rapport avec... comment ce que je veux dire? C'est un rapport avec le Grand Prix?
Bah, le fait que ça arrive, je dis oui, c'est le rapport avec le Grand Prix.
Ouais, bon, bah, c'est avec... bon, ça va.
C'est un rapport avec le cinéma?
Ça a un rapport avec le cinéma.
Pas capillotracté de façon Shinji, hein, on est d'accord.
Ah non, non.
Donc il y a la promotion d'un film?
Non.
La projection d'un film?
Oh non!
Remarque que c'est trop facile puisque c'est Anton Arlo qui nous en a parlé dans le dernier mag. Donc...
Alors ça a à voir avec le cinéma, mais est-ce que ça a à voir avec un film en particulier?
Oui, même plusieurs.
Des films ayant rapport avec le sport automobile?
Pas du tout.
Driven 2.
Enfin!
Enfin la suite. La
avec Steven Seagal, Nicolas Cage.
Victoire.
Plusieurs films. Mm. Est-ce que ça a un lien avec plusieurs écuries?
Non. Le lien, c'est que c'est quelque chose qui arrive jeudi, le jour, que ça arrivera à Monaco, le jour du Grand Prix.
Mais la chose, c'est le jour du Grand Prix, le jour de jeudi du Grand Prix, mais ça n'arrivera pas à Monaco même, en fait.
Si, ça arrivera à Monaco.
Mais pas qu'à Monaco.
Bah, avant, ils sont pas à Monaco, mais jeudi, ils seront à Monaco.
Il y a un tournage d'un film à Monaco, peut-être, jeudi?
Non.
Un groupe de personnes?
Oui, on peut dire qu'il y a un groupe de personnes, oui, qui va arriver à Monaco jeudi.
Des acteurs?
Pas des acteurs.
Des musiciens?
Non.
Des chiens, les frères de Roscoe?
C'est... Les gens qui arrivent à Monaco ne sont pas spécialement liés au cinéma.
Mais ce qu'ils font, c'est lié au cinéma par contre?
Bah, généralement non, mais là il s'avère qu'il y a un truc qui est lié au cinéma.
Oh putain, mais tu fais chier toi.
Je peux vous dire que c'est en relation avec trois films. Ça va vachement vous aider.
Ça a un lien avec le Festival de Cannes?
Non, je crois pas que ça soit passé au Festival de Cannes.
Donc, des trois personnes qui devaient être à tes côtés ce soir, Shinji, c'est quand même Dino qui s'y connaît le plus en cinéma, je pense. En cas.
Alors, reprenons. Pourquoi j'ai rien noté? Quel con.
Il y a quelque chose qui va arriver à Monaco. Mais véritablement, ils vont arriver à Monaco, ça sera la fin jeudi. Ça, c'est ce que vous savez.
Le cirque Pinder.
Non.
Ils vont arriver à Monaco, donc avant ils ont fait d'autres...
Oui, alors si je retrouve... Ils sont partis le 18 de Copenhague.
L'Eurovision.
Non, c'est pas l'Eurovision. Aujourd'hui, ils sont du côté de Riga.
Enfin... D'ailleurs, merci Saint-Marin. Parce que...
C'est vrai, c'est vrai.
Enfin,
quand
bon.
Tu penses qu'il y a trois personnes qui ont dû voter à Saint-Marin et grâce à laquelle on a 8 points.
Ils ont fait un peu toutes les capitales scandinaves, donc là ils sont dans les Pays-Baltes et ils vont redescendre pour arriver à Monaco jeudi.
C'est un film qui vient de Scandinavie?
C'est pas un film.
Une comédie musicale?
Non, pas du tout.
C'est un rapport avec le cinéma, ça?
Bah, ce qui est en train de se dérouler n'a pas un rapport direct avec le cinéma. Mais dedans, il y a quelque chose qui a un rapport avec le cinéma.
Et dans tout ça, il y a un rapport avec la Formule 1, hein. On est d'accord qu'on respecte les règles du jeu.
C'est le fait qu'ils arrivent jeudi à Monaco pour le Grand Prix de Monaco.
Ah oui, donc, oui, d'accord. Une conjonction de dates, disons.
Ah, ils ont fait exprès.
Il y a une situation spatio-temporelle un peu.
Je peux même vous dire qu'après, tout ce qui est... pour être très précis, ils arrivent à Monaco le soir et ça sera du côté du Fairmont Hotel.
Ah oui, ouais, je connais bien.
Qui est l'hôtel où il y a la fameuse épingle à Monaco.
L'ancienne gare, le low.
Voilà, c'est pas un boui-boui, non, non. C'est...
Alors, de toute façon, à Monaco, pas beaucoup de boui-boui.
C'est vrai.
Ah, un petit resto chez René. Imagine.
Une base de loisirs.
Un menu à 35 euros, c'est pas cher pour, pour Monaco.
D'après vous, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens de Copenhague jusqu'à Monaco ?
Voyager ?
Oui, c'est oui, t'as fait.
À vélo ?
Ah non, pas du tout. Même pas du tout, du tout, du tout.
Le Gumball 3000.
Oui, c'est le Gumball 3000.
Oh oui ! Oh, c'est beau ça.
Hein. Donc dans le Gumball 3000, il y a des voitures, donc qui sont tout le contraire de vélo, surtout le Gumball 3000. En règle générale, c'est plutôt des supercars et tout ce qu'il y a dans le genre, quoi. Hein.
Quoique le record du monde de vitesse à vélo a été battu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, 263 km/h.
Pour les cyclistes.
Et donc, il y a un truc parmi les participants du Gumball 3000.
C'est même pas ce que c'est, putain, mais je suis ignorant.
Genre Patrick Dempsey ou un truc dans le genre.
Non, c'est pas une personne.
La Batmobile.
C'est la Batmobile.
Oh, bravo.
Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille?
Je sais pas, bah une voiture d'un film célèbre, je suis pas cinéphile, mais Batman quand même un minimum quoi.
Voilà, cette année, au Gumball 3000, donc, qui est donc une course de gens super friqués, dans des voitures super friquées, qui roulent en règle générale très très vite et qui souvent, en règle générale, eux on les arrête pas, on leur file pas des amendes, on pique directement la voiture. Parce que en règle générale, les dépassements de vitesse sont bien élevés. Et donc, parmi les voitures, hein, donc parmi les coupés Mercedes, les Fiat Abarth et tout ce que vous voulez, la team Galag, une team d'Arabie Saoudite, a deux voitures, donc une supercar et une Batmobile. Mais attention, pas une Batmobile qu'ils ont achetée au studio hollywoodien. Hein. Non, 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 une Batmobile qu'ils ont fabriquée eux-mêmes.
Ah ouais.
Voilà. Et je précise bien, quand je dis trois films, c'est les films de Christopher Nolan. Donc c'est le Tumblr. C'est pas la Batmobile époque Tim Burton. Hein. Non, non, c'est le gros truc.
C'est le tank.
C'est le tank.
Oui, d'accord. Oui, oui.
Donc ils ont construit une Batmobile avec un moteur V8 6 litres 2 qui a une puissance de 400 chevaux et une vitesse qui peut atteindre 160 km/h.
Ça décoiffe, dis donc, 160.
C'est clair.
Tu risques pas de perdre ton permis.
En même temps,
hein,
t'imagines le poids du truc, hein.
Ouais.
Ouais, mais enfin, c'est pas avec ça que tu vas sauver Gotham. Sans être méchant.
Donc, apparemment, ça leur a coûté 1,2 million d'euros pour refabriquer une Batmobile. Qui devrait donc être là, jeudi, à Monaco.
Très bien.
On va demander les photos d'envoyé spécial de Fan F1.
D'ailleurs, c'est qui? Pas moi.
C'est pour ça qu'il est blasé. C'est que c'est pas lui.
Mais non.
Eh bien, bravo, Gus Gus.
Ah, merci.
Ouais, bravo, bien joué.
Par contre, je pense qu'à trois, quand même, utiliser ta gueule, ça va être chaud. Va falloir qu'on
passe
à dialogue.
Bah, c'est-à-dire que oui, surtout que je me sens pas du tout mal par rapport à ça. Tout va bien.
Allez, messieurs, on va passer au podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Un podium extrêmement riche cette semaine, brillant, où il y a des dizaines d'actus qui ont circulé cette semaine, c'est juste incroyable. Alors vu qu'il y a deux grosses actus, laquelle vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle des pneus ou vous voulez qu'on parle des moteurs? Ou des gens? Ou des permis? C'est menu à la carte cette semaine.
Est-ce qu'on évacuerait pas tout de suite la question des Pirelli?
Oui, oui, oui.
Parce que bon.
C'est le point Pirelli du mag.
Voilà.
Depuis le début de l'année, on en parle.
Le fameux point Pirelli, hein, qui a eu encore une fois un rebondissement, un double rebondissement même. Puisque.
Boing, boing.
Puisque donc Pirelli a d'abord dit, ouais, c'est bon, on a peut-être un peu merdé, hein. 4-4, c'était peut-être un petit peu beaucoup, hein, en Espagne.
Un peu.
Un petit peu. On va changer nos pneus. Donc ça, on l'avait déjà un peu évoqué la semaine dernière dans le SAV. Et il y a eu la FIA qui est venue par derrière et qui a dit « Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Non. Vous pouvez changer les pneus pour la sécurité. » Donc en gros, hein, les structures Kevlar et tout ça pour éviter les crevaisons, hein, les crevaisons soudaines. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de toucher à la qualité des pneus, au fait, à leur durée de vie et à leur performance. Comme quoi, un Pirelli peut pas faire tout ce qu'il veut, hein, avec ses pneus. Comme quoi, on n'arrêtait pas de le dire. Là, la FIA l'a confirmé, parce que, a priori, Pirelli, ils étaient vraiment partis pour vraiment modifier profondément les pneus. Mais malgré tout, le fait qu'ils changent la structure, ça a quand même changé les performances du pneu.
C'est compliqué à dire, en fait. Quand on ne saura pas exactement quel est le problème de délamination, comme on a vu, c'est que le pneu s'effeuille à un moment ou à un autre, et il part en lambeaux. Et on parle aussi d'une histoire de colle qui, sous une certaine température, fonderait, qui fait que le pneu, la gomme se désolidariserait de la structure sous-jacente. Et du coup, s'il suffit juste de mettre une colle qui a des caractéristiques qui font plus à des, qui résistent à des températures plus hautes, c'est quand même difficile. Je pense que ça changera pas en profondeur la hiérarchie, parce que ça réglera seulement le problème des délaminations et rien d'autre. C'est pas de nature à changer le comportement du pneu. Il faudrait vraiment que le pneu se déforme énormément pour que ça change quoi que ce soit, en fait.
Ouais, mais c'est vrai, comme tu le dis, le problème c'est de savoir exactement ce qu'ils vont faire, parce que là c'est un peu ce que je reprocherais à Pirelli depuis quelques semaines, c'est-à-dire que on sait pas trop quoi, en fait. Mais eux-mêmes, t'as l'impression qu'ils connaissent pas leur propre ligne directrice. Alors, dire sans parler du fait qu'on leur a demandé de faire des pneus qui étaient des pneus pour le spectacle, donc ça c'est une exigence qu'on peut pas leur reprocher, hein. On peut le reprocher qu'à ceux qui l'ont mis en place. Mais après, Pirelli a communiqué d'abord beaucoup en disant nous, nos pneus, on va pas y toucher, ils sont très bien comme ça, c'est un défi pour les équipes. Et puis là, depuis quelques semaines, on sent quand même un fléchissement. Et fléchissement qui a été au début très mesuré, c'est-à-dire on a dit bon, il y a peut-être un problème, mais malgré tout, on veut pas toucher la structure du pneu, la manière dont il est conçu, on va juste durcir un petit peu les pneus durs. Et là, on arrive en début de semaine, en début de semaine dernière donc, avec la volonté affichée. Alors là, c'est de faire de profondes modifications.
Le fléchissement, il est aussi dû parce qu'apparemment, il y a eu un très gros lobbying, notamment de Red Bull. Il y a eu des scènes où apparemment Dieter Mathis était là, il est allé voir Jean Todt, il est allé voir les gens de Pirelli, il est allé voir les gens de Mercedes. Voilà, on leur a aussi un petit peu forcé la main.
Ouais, non mais enfin, soit, mais c'est le lot c'est le lot de la discipline. Moi, je veux pas taper sur Pirelli parce que je pense pas que beaucoup auraient fait mieux ou pire. Enfin, c'est pas la question, mais moi, ce que je pense, c'est que si Pirelli avait le moindre doute sur le fait que peut-être à un moment ça serait trop, comme beaucoup ont eu lors du Grand Prix d'Espagne, c'est-à-dire cette impression de trop quoi. On pressentait depuis le début de saison qu'il y avait beaucoup d'arrêts au stand et que ça devenait un petit peu difficile à suivre. Non pas forcément que ce soit le problème, mais le problème c'est peut-être qu'il y a justement un peu trop d'arrêts au stand, un peu trop de stratégie pneumatique, ça devient un petit peu la donne essentielle. Si Pirelli avait le moindre doute que cela pouvait nuire à l'aspect spectaculaire qu'on voulait imposer en créant des pneus encore plus tendre. En tout cas, fallait essayer de se prévoir une porte de sortie. C'est un peu ça que je reproche. Après qu'il y en ait qui veulent changer, que ce soit Red Bull principalement, mais qu'il y en ait qui ne veulent pas changer, et qu'on me dise pas que le lobby de Ferrari, que le lobby de Lotus peut pas être aussi puissant que le lobby de Red Bull. Bon, je pense que à ce niveau-là, c'est pas la problématique. Mais la véritable problématique, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien mesuré le risque que présentait cette nouvelle donne pneumatique en 2013? C'est un peu ça que je reproche. Après, de toute façon, là, on est face à un problème qui malheureusement prend au piège Pirelli, parce qu'ils peuvent absolument rien faire, quoi, à part changer la structure modifier les problèmes qui font qu'il y a des délaminations, des crevaisons. Donc, à part ça, ils peuvent rien changer. Pirelli aujourd'hui se retrouve piégé, et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que s'il y a véritablement un problème et que ça se confirme par la suite, on va en être toujours au même point, avec les partisans du pour et les partisans du contre qui, eux, ne bougeront pas d'un iota, et Pirelli qui sera au milieu, ne pouvant absolument rien faire, avec la FIA qui leur rappellera le règlement. Donc c'est un peu ça que je reprocherais. Pour le reste, je sais pas, moi c'est la philosophie globale de ce changement-là, mais on en a parlé à multiples reprises, donc on va pas revenir là-dessus, mais c'est le Grand Prix d'Espagne, pour moi, ça a marqué véritablement le problème, voilà, le véritable problème que posaient de telles gommes. Après, chacun voit midi à sa porte, il y en a qui ont trouvé ça très bien. Bon, 4 arrêts au stand, c'est effectivement un peu trop. D'ailleurs, ça me fait penser que quand j'ai écrit l'article sur le rappel à l'ordre de la FIA, j'ai exhumé un des articles qu'on avait fait pour une rétro en 2011, qui mettait en exergue une stratégie à 4 arrêts comme étant un fait marquant des années 2000. Et ce qui s'est passé en Espagne, c'est que pratiquement tout le monde a fait 4 arrêts.
Oui.
Donc là, je trouve que là, on a le point de basculement, peut-être, du trop-plein de cette volonté spectaculaire en passant par les pneus, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est un débat qu'on a à chaque fois, donc on va pas l'exhumer, mais voilà quoi.
Donc là, les pneus devraient être modifiés pour le Canada, Mais voilà, faut pas s'attendre à quelque chose de complètement différent de ce qu'on avait en début de saison, à part voilà peut-être ces structures qui seraient peut-être différentes pour éviter les soucis de sécurité.
Ouais. Tout ça quand même, ça montre que la gouvernance de l'AF1, il y a un problème quand même là-dedans. On a voulu donner le pouvoir aux équipes. Problème, c'est que les équipes n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles. Il y a des divergences qui apparaissent, que ce soit pour les pneus, les essais, etc. Et au milieu de ça, il y a la FIA qui ne sert que de relais aux équipes au final, parce que c'est la FIA, elle est juste là, comme on l'a bien vu là, pour dire attention, le règlement dit ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, mais elle va pas plus loin en essayant d'imposer des choix qu'elle n'a pas le droit de faire. De
ouais, toute parce façon, que
en plein milieu de saison, sans.
Parce que en dehors de la sécurité, si Pirelli veut faire des changements, faut qu'ils aient l'accord de toutes les équipes.
Bah oui. Voilà,
voilà c'est ça. Donc c'est bien que cette histoire d'unanimité, d'essayer de concilier tous les intérêts d'équipes qui n'ont pas la même raison d'être, qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui n'ont pas qui sont adversaires au final.
Oui, c'est, bah oui.
Y a, rien que la simple chose fait que qu'elles seront pas d'accord. Red Bull et Ferrari seront quasiment jamais d'accord sur rien. McLaren aussi, sachant que ils se battent pour des titres et que il faut défendre son bout de gras quoi pour parler un peu crûment. Donc Moi, je pense qu'il y a une remise à question à faire au niveau des institutions, de redonner un peu plus, sans donner tout le pouvoir, mais redonner plus de pouvoir à la FIA, parce que sans une autorité qui mette un peu tout le monde d'accord quand il le faille, il se passe rien. On arrive à des problématiques comme celle-là où d'un côté il y a un problème de sécurité, de l'autre côté il y a un problème de spectacle, et on ne peut en régler qu'un sur les deux, et c'est la sécurité, ce qui est normal, hein, je veux dire, c'est pas.
Ouais.
En fait, la sécurité est le seul argument qui passe au-dessus de tout. Faire des changements au nom de la sécurité, tu peux les faire autant que tu veux, à tout moment dans la saison. Ils ont pas besoin de l'unanimité, mais il n'y a que ça.
Oui, non, mais bon, après c'est logique, mais comme le dit Gus, je crois que c'est ça, l'exigence d'unanimité, ça tue toujours les évolutions, parce que t'as toujours des gens qui, même face à quelque chose qui paraît inéluctable, vont aller contre, parce que ça ne sert pas leur intérêt. Et je crois que c'est vrai que c'est tout ce modèle-là aussi, parce que il y a quand même un certain paradoxe, mais c'est un peu près ce que tu disais, mais un certain paradoxe à exiger l'unanimité sur de telles questions, parce que la question pneumatique, c'est quand même certainement la question fondamentale actuellement, enfin depuis au moins deux saisons en Formule 1. Et il y a quand même un certain paradoxe à avoir à une nécessité d'unanimité fondamentale, mais en même temps tout autour à voir se désagréger ce qu'on a pu connaître sous la forme d'union des équipes avec la négociation individuelle des droits, tout ça. C'est-à-dire que aujourd'hui on est clairement dans une époque de dissociation des équipes sur à peu près tout, et sur des questions fondamentales on demande l'unanimité. À mon sens, il y a un paradoxe et aujourd'hui un problème, parce que on a beau dire certaines équipes s'en sont mieux tirées que d'autres, effectivement, mais et le mérite leur revient complètement. Mais est-ce que tout ça aussi n'a pas une comment dire, tout ça n'a pas à voir avec un petit peu, j'ai envie de dire, du hasard, parce qu'aujourd'hui on teste les pneus 2000, on a testé les pneus 2013 combien, une heure et demie,
exact, c'est ça, oui.
Une heure et demie à une époque où les voitures sont déjà pour la plupart conçus, en tout cas dans leurs grandes lignes. Enfin, je crois que c'est Dino qui le disait lors du dernier SAV, c'est-à-dire que là aussi, est-ce qu'il y aurait pas quand même une base qui serait de s'entendre quand même sur des essais qui puissent s'effectuer dans les meilleures conditions possibles pour donner vraiment un vrai ressenti, mais c'est la faute des équipes, ça, pour donner un vrai ressenti sur les pneumatiques, pour savoir à peu près comment les pneumatiques pourront fonctionner et pouvoir concevoir leur voiture autour de ça. Enfin, je sais pas. Moi, c'est vrai que, comme tu dis, c'est tout un système à revoir. Je pense qu'on marche un peu à l'envers en ce moment en Formule 1. C'est un peu dommage.
C'est pas que c'est un peu mesquin de la part des écuries qui pointent Pirelli du doigt.
Tout à fait.
Parce qu'elles en sont tout autant responsables, quoi. Elles se sont pas mises d'accord pour faire les essais jeunes pilotes, qui auraient permis de tester les Pirelli un peu plus tôt. Mm-hmm. Ça a toujours été un peu tard, vu que ça aurait été novembre à Abu Dhabi ou quelque chose dans le genre. Mais elles auraient pu avoir plus de retours pour plus influer sur les designs des suspensions, etc. Enfin, pour agir en conséquence, quoi, pour savoir que Peut-être même pour déceler que, pour en taper du poing sur la table, dire à Pirelli, ça va pas, ces pneus vont pas, il y aura trop d'arrêts cette année, il faut faire le changement. On aurait peut-être eu le temps de faire un changement, d'apporter des nouveaux pneus pour les essais privés et de corriger le problème avant qu'il n'arrive. Là, effectivement, comme tu le dis, c'est un peu la faillite des accords Concorde actuels au final. Hein. Parce que c'est ça qui régit les rapports de force entre les écuries, la FIA et les titulaires des droits commerciaux, c'est un échec. Il faudrait revoir ça. Le problème, c'est qu'on a re-signé jusqu'en 2018, non? C'est pas ça? C'est pas signé encore, mais tel que c'est en train de faire, et peut-être même que ça aura des conséquences, hein, d'ailleurs, sur les signatures. Peut-être que les écuries, peut-être que toutes les parties sont en train de se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche dans les contrats tels qu'ils sont actuellement en train de les rédiger. Peut-être que c'est ça pour ça aussi que ça traîne.
Mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir du côté des possibilités qu'on doit laisser à Pirelli de pouvoir, à certains points de la saison, effectuer des modifications malgré tout, parce que voilà, là on est complètement, enfin, je veux dire, c'est tout juste si on découvre pas les pneus quand une fois que la voiture est complètement, enfin c'est ça d'ailleurs, on découvre les pneus quand la voiture est entièrement conçue aux essais de début de saison, et alors quand tu tombes sur des saisons où malheureusement les essais sont pas du tout dans les conditions représentatives de ce qui se déroulera plus tard dans la saison, bah t'arrives à ces extrémités-là. Et c'est, tout à l'heure, je parlais de Pirelli, c'était surtout dans le discours, parce que malheureusement, ils sont complètement piégés par ce système, et c'est ça un peu que je reprocherais à la F1 tout entière, c'est-à-dire vraiment ne pas permettre à Pirelli d'avoir une porte de sortie. Je connais plus exactement le dossier, mais en 2011, pour leur première saison, c'est ça, 2011.
Oui.
Ouais, et ils avaient eu, je crois, une possibilité de retoucher, d'effectuer des modifications au bout de quelques grands prix.
Mais c'est ce qu'ils ont fait cette année aussi, hein, au final.
Ouais, non, mais est-ce que peut-être qu'on n'aurait pas pu partir sur ce modèle-là sur toutes les saisons? Enfin, après, bon, je sais pas, c'est peut-être quelque chose de sous-jacent, mais là, pour le coup, visiblement, ça fonctionne pas très bien. Mais...
Tu peux faire des changements réguliers, mais après, combien, quel niveau, enfin, c'est...
C'est vrai que c'est inexplicable.
Si tu fais un changement au bout de 4 courses, on peut s'attendre à ce que derrière, tous les 4 courses, il y a un changement, quoi. Bon, qu'on fasse un changement ou deux par saison, tant qu'à faire, pourquoi pas. Après, si c'est pour changer quasiment toutes les courses de pneus, à la limite, ça c'est l'extrémité la plus intéressante. Ce serait d'amener, comme fait par exemple Goodyear en NASCAR. Goodyear amène à chaque fois des pneus spécifiques pour tel circuit, en tout cas pour des types de circuits qui se ressemblent. À une, je pense que ça fait du coup quelque chose comme une dizaine de gammes de pneus à disposition. Pourquoi pas en F1 faire avoir plus de choix de pneus à apporter pour essayer d'avoir à chaque course deux arrêts, quoi.
Alors, à noter pour l'avenir, puisque on arrive déjà au mois de juin, on sait que on se pose la question pour l'an prochain. Apparemment, ça serait bien parti pour que Pirelli re-signe pour un nouveau contrat de 3 ans. Je crois que c'est dans les spécialistes. Julien Febro précisait par exemple qu'apparemment Pirelli avait déjà acheté les espaces publicitaires pour l'an prochain.
Ouais.
Ce qui est quand même pas anodin.
Oui. Ça serait beau que ce soit en Cook et que Pirelli ait ses espaces publicitaires.
Allez, on va passer à la suite. On va parler un peu personnel, puisqu'on a appris un départ, une arrivée. Le départ, c'est James Allison. Il quitte Lotus, on ne sait pas encore chez qui. Et de l'autre, Spadillo. Alors lui, ça fait des semaines qu'on se doute qu'il va partir de chez McLaren. Cette fois-ci, c'est officiel, il rejoindra Mercedes début juin.
Spadillo, c'est le Raymond Domenech de l'AF. Merci de l'Istap.
McLaren qui dit ne pas avoir reçu de dédommagement de la part de Mercedes pour avoir lâché Spadillo. En tout cas, apparemment, il y a eu d'âpres négociations, parce que ça fait quand même des semaines, voire des mois, on dit que Padillo rejoindra Mercedes.
Bah, ils sont mauvais négociateurs, du coup, enfin, je sais pas. t'arrives pas à te mettre d'accord sur un dédommagement, et... C'est bon, on le laisse partir, bah, c'est qu'ils ont échoué à négocier.
Et encore une personne de plus chez Mercedes. Alors, je crois que c'est Rose Brown, il y a quelques semaines ou quelques mois, qui disait, non, Padillo, il viendra pas chez Mercedes, ou alors, le jour où je partirai.
Mais bah, tu fais tes valises, hein.
Bah, écoute,
que Mercedes, ils sont sur Ancelotti aussi. Hein.
Alors, mais Mercedes, ils sont sur tout le monde, Mercedes. C'est juste incroyable.
Mourinho, Benitez.
C'est les Qataris de la F1, Mercedes.
C'est vrai que quand tu mets les noms, je sais pas tous en tête, mais Bob Bell, Geoff Willis, Aldo Costa, Rose Brown, Padillo,
Toto Wolff, Lewis Hamilton, il fait partie aussi du paquet.
James Allison.
Ah, t'imagines.
Non, mais à un moment, ils vont s'arrêter, peut-être. Non, mais... Fadilo, il devait pas rejoindre en fin d'année. Enfin, il devait pas faire sa dernière année chez McLaren et puis partir pour Mercedes. C'est pas ça le deal.
Bah, on savait pas. Déjà, il avait pas participé à la présentation de la voiture, ce qui était quand même vu comme un énorme signe. Parce qu'il était quand même directeur technique chez McLaren. Oui, donc on en avait parlé pour ce début de saison. On s'était dit bon bah il va peut-être y avoir une saison blanche entre guillemets avant d'arriver chez Mercedes. Finalement, non. Ça sera début juin.
Oui, bon, à la limite, je sais pas si McLaren a pas poussé à la limite pour qu'il aille chez Mercedes tout de suite, genre...
Vas-y, va leur pourrir leurs pneus encore plus.
Non, mais c'est ça, ouais. Je sais pas, casse-toi. Non, regarde pas les murs
mais
en partant, laisse-moi tranquille.
Peut-être que Padillo est un amoureux fou du moteur Mercedes, alors tu sais, il faut un peu le ménage chez McLaren en ce moment.
Les notes de service.
Toute personne qui aime le moteur Mercedes est virée à partir de demain. Mais bon, c'est vrai, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, c'est l'accumulation de grands noms ne fait pas une grande équipe, forcément. Surtout là, il y en a peut-être un peu trop.
Mais alors, il est à quel poste, du coup, directeur technique opérationnel, c'est ça?
Ah oui, ils vont créer de nouveaux trucs.
Je sais pas.
Du coup, Bob Bell est directeur technique non opérationnel.
Non,
enfin, c'est un truc, enfin, c'est... Il est là, il regarde.
Il est coincé quelque part entre Bob Bell et Aldo Costa, mais en même temps, il doit pas oublier d'envoyer ses post-it à Niki Lauda, enfin, et Toto Wolff en même temps.
C'est du délire, quoi. Je veux bien qu'on essaye de recruter les personnes les plus compétentes, mais d'une, on voit bien que ça marche pas. Mercedes est peut-être en rémission par rapport aux années précédentes, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ça fait quand même 3 ans qu'ils scoltinent un problème assez... assez important avec les pneus.
Ou alors, je les soupçonne de vouloir créer une deuxième équipe. Ils en
mangent plein de monde. Tu penses pas qu'ils veulent faire ça? Tu penses pas qu'ils veulent faire une voiture créée d'une certaine manière, une autre, un truc comme ça?
Parce qu'il y a tellement de monde.
Ça s'appelait Honda encore. Hein. Ils avaient fait 3 voitures pour 2009, ils avaient choisi la meilleure. Mais
il y a tellement de monde, ils peuvent faire 4 équipes. Hein.
Mais... Ou alors c'est vraiment un truc crapuleux qui consiste à affaiblir tous les concurrents en prenant les meilleurs noms sur le marché, mais on voit
c'est
très bien
qu'ils
que
les affaiblissent vachement.
Ça, ouais. En tout cas, eux, ils se renforcent pas visiblement à chaque fois qu'ils recrutent quelqu'un. Donc.
Mais c'est des mecs qui aiment le changement. Ça. Ils ouvrent leur armoire à manager en disant ah tiens aujourd'hui je vais mettre mon petit Aldo Costa.
Manque plus que Adrian. Imaginez le scoop. Ah. Adrian Newey chez Mercedes,
oh ouais, non,
mais avec
mais
tous
bon.
Les autres.
Mais c'est ça, les réunions doivent être sympas.
Ouais.
Pour se mettre d'accord sur un concept.
Ouais, c'est ça. T'imagines si en plus il faut l'unanimité comme pour les changements de règlement.
C'est bon ça.
Et disons, sinon l'autre personne dont on a parlé, c'est James Allison, lui qui quitte Lotus. Alors, on parle de Ferrari, on parle peut-être de McLaren. Là par contre, rien n'a été décidé pour l'instant. Lui, par contre, il est pas impossible que ça soit que début 2014, qu'on sache où il va.
Il est parti, là, déjà? Oui, c'est vrai.
Ah
il
ouais,
a
ça
été
a été officialisé.
Par,
Nick Chester.
Bah, voilà, inconnu au bataillon, mais c'est peut-être pas plus mal.
Oui.
D'ailleurs. Parce que ça permet aussi de... promouvoir des gens en interne, ça permet aussi d'amener peut-être de nouvelles...
Nouvelles
idées, un nouveau souffle, mais avec des personnes connues, et un organigramme déjà... Enfin, tout le monde bouge d'un rang, quoi. C'est juste ça. Ça fait
une certaine continuité, quoi.
Chacun prend le travail de son prédécesseur. Mais du coup, les gens se connaissent. Déjà des relations. Il n'y a pas à retisser des liens entre les personnes, comme par exemple l'année dernière en début de saison avec Ferrari quand Pat Fry est arrivé, quoi.
Après, on verra où il ira. On va lui demander. Vous préférez les lasagnes italiennes ou les sushis au pudding? C'est comme ça, tu vois.
Les sushis au pudding.
Oui,
bah oui, parce que McLaren Honda.
Ah.
Oh. Bah,
je crois qu'on a déjà le titre de l'émission.
Elle est encore
qui cuisine des sushis au pudding.
Mélanger des cultures, c'est sympa. Alors, Red Bull Renault, c'est quoi, des strudels aux grenouilles?
Aux escargots.
Des strudels aux escargots. Le truc dégueulasse. Non, mais c'est bien.
Allez.
Attends, c'est Red Bull Infinity, c'est japonais, non, Infinity?
Oui. C'est japonais à moitié français. Hein. Bah c'est pour ça qu'ils sont multicolores.
Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez vu la Mégane RS série spéciale Red Bull RB8?
Ah non?
Non.
C'est juste une Mégane RS avec la couleur Red Bull de l'année dernière, pas le violet de cette année. Et
c'est-à-dire en même temps, c'est RB8, hein, pas RB9.
Oui,
enfin,
oui,
ils ont bien précisé.
Mais ils quittent la Mégane, mais ils font aucune modification sur le moteur, sur les pneus, sur l'adhérence.
Ah, c'est juste la
machin.
Peinture.
C'est juste la peinture et la connectique à l'intérieur. Quoi, c'est tout. Mais c'est une série spéciale limitée. Les gens vont se ruer dessus.
La connectique du Kers de Weber. Bon, je dis ça, je dis rien.
Le switch, il écrit Weber dessus. C'est Web W.
Ils ont refourgué les vieux alternateurs. Ils sont foutus sur la bagnole. C'est moche. Non, mais pour revenir plus sérieusement, comme disait Gus Gus, c'est bien, je pense, de promouvoir en interne. C'est à la fois effectivement la nouveauté, puis la une certaine continuité, parce que bon, on parle d'un travail qui a été effectué par Allison, mais qui du coup va porter ses fruits sans jusqu'à la fin de saison. Et puis c'est sans doute le moment idéal pour promouvoir quelqu'un qui va aller faire évoluer la voiture à son terme,
qui va apporter ses idées, qui va faire ses preuves, et qui dans 5 ans sera embauché par Mercedes.
et comment Chester,
ta gueule.
Je vote.
Moi je suis content, mes mélanges culinaires c'est passé.
Non mais pour rebondir sur ce qu'il disait, c'est aussi une récompense du travail qui a été fait en interne, quoi. C'est toujours gratifiant de se voir promouvoir plutôt que de voir arriver quelqu'un qui a pas participé au succès récent de l'écurie. Du coup, quand on voit quelqu'un qui arrive et qui profite un peu du travail que t'as fait avant, enfin ça te fait poser des questions, ça te fait cogiter, donc ça te met dans de meilleures prédispositions pour travailler encore plus dur et encore mieux, quoi.
Et puis quelqu'un qui arrive, c'est rare quand même que ça marche tout de suite. Même les meilleurs, faut quand même un petit peu de temps pour que la sauce prenne. Là actuellement, Lotus est quand même dans une situation, surtout par rapport à l'an prochain. Ils sont dans un moment actuellement dans la vie de l'écurie où ils peuvent pas se permettre de se dire on va passer 2-3 ans peut-être moyen. Non, là c'est le contraire, c'est le moment où ils doivent capitaliser un maximum pour essayer d'atteindre un nouveau gap. Donc oui, c'est très bien d'avoir quelqu'un en interne qui connaît la voiture et qui pourra en effet la faire évoluer.
D'autant plus que quand Génie a racheté l'écurie Renault F1 Team début 2010, je sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui donnaient cher de la peau de l'écurie, parce que c'est un Génie, ça départ un peu d'importe où. On mettait Boulier qui était chez Dams, je crois, avant en GP2 et en F3000, mais donc qui avait aucune expérience du milieu de la Formule 1. Quand on regarde quand même, ils ont quand même de quoi être fiers, parce qu'ils sont remontés. Ils sont montés quand même d'une écurie qui était entachée de l'affaire du Crashgate, avec ils avaient perdu Alonso. Alors ok, ils avaient Kubica, mais ils avaient ils reviennent de loin, quoi. Donc autant récompenser ceux qui ont participé à ce travail plutôt que d'aller chercher ailleurs, surtout qu'ils n'ont pas forcément les ressources financières pour recruter chèrement chez les autres écuries, quoi.
Sinon, autre actu de ces dernières semaines, le permis à points. Hein. Donc apparemment, les équipes sont d'accord sur le principe. Ça n'est pas encore appliqué cette année, ça sera plutôt l'an prochain. Là, actuellement, on va dire qu'ils vont faire les comptes, voir un peu comment ça se serait passé s'il était appliqué, peut-être pour faire quelques ajustements. On l'avait aussi évoqué un peu lors du dernier SAV. C'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que donc il y a ce système de points, et forcément, il a fallu calculer ce que valait une infraction. Donc parfois il y a des infractions qui ont le même nombre de points, d'autres qui ne l'ont pas. Ça implique forcément des questions sur qu'est-ce qui est plus grave qu'une infraction par rapport à une autre. Ça amène beaucoup de questions, tout ça.
Et surtout, j'ai l'impression qu'on répond pas au plus grand problème. Je crois que Fab sera d'accord avec moi, parce qu'on en a plusieurs fois discuté ici. C'est l'exemple de la suspension de Romain Grosjean qui avait eu aucun problème, qui avait aucun casier entre guillemets, et qui se voit infliger une suspension de but en blanc, et qui donc sans antécédent et tellement mal justifié, parce que c'était ça a éliminé des championnats des concurrents pour le titre, et donc ça a été mal justifié et disproportionné, et ça répond absolument pas au problème, parce qu'il y a toujours cette composante de pouvoir suspendre un pilote à la discrétion des commissaires. Après ça, quand on regarde la liste des sanctions qui sont évoquées, il y a quand même des inepties. Parce que 3 points pour un dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse dans les stands, suffit que tu loupes un poil ton freinage et t'arrives à 120,1 au lieu de 100, et tu te prends 3 points dans les dents. Il t'en reste plus que 9, hein, et comme le disait, je crois que c'est Dino qui disait ça la semaine dernière, ça te donne un quota d'erreurs à faire.
Ouais, c'est le principe même du permis à points. Permis à points habituel.
Le principe est déjà pas glorieux au départ. Si en plus, si c'est pour mal calibrer les points et laisser quand même des portes de sortie au commissaire de disqualifier quelqu'un, de suspendre quelqu'un un peu... un peu à la tête du client. Pour... Enfin, Grosjean, c'était pas à la tête du client, mais c'est au regard de faits périphériques autour de l'incident et pas de l'incident lui-même, pas de la faute qui avait été commise elle-même, mais des conséquences.
Fab, tu peux reparler.
Oui, merci. Je suis assez d'accord sur le... Enfin, à vrai dire, je suis pas pour instinctivement. Le problème, je pense, c'est de quantifier, comme tu le disais, de quantifier
sachant
les fautes.
Sachant qu'il faut le répéter, il n'est pas impossible qu'il y ait des ajustements. Ça n'est
oui,
pas
non, mais tout, tout
faut
à fait.
Faut quand même le dire. Hein. Et ça ne sera que l'an prochain. Il y aura peut-être des ajustements à ce niveau-là. Hein.
Oui, oui, non, mais c'est, puis c'est des indiscrétions après les barèmes. Hein. Il y a des chances que ce soit proche de la réalité, mais c'est rien d'officiel dans tout ça. À vrai dire, j'ai eu mal à me positionner. Je suis a priori pas pour. Après, je pense que quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire que ce système soit mis en place en plus peut-être du système actuel, parce que je vois pas tellement comment on pourrait fonctionner un système sans. Système juste du permis à points, ça me paraît délicat. Parce que là, pour le coup, une faute...
Qu'est-ce que t'appelles le système actuel, en fait ?
Que j'appelle le système actuel, les pénalités sur la grille, les amendes, tout ça. Je pense parce que la question c'est de savoir est-ce qu'on
met des drive-thru avec en fait ça le truc.
Oui.
On veut pas.
Moi je pense que si tu instaures un permis à points, c'est surtout pour c'est parce que le problème du système actuel et comme tu le rappelais justement, c'est qu'aujourd'hui on n'arrive pas à quantifier quand c'est qu'un pilote au bout d'un certain temps. Alors à part le truc des trois infractions qui entraînent automatiquement une pénalité sur la grille.
Et ça s'est vu qu'une fois d'ailleurs. C'est Maldonado.
Et encore, il a quand même fallu que ça soit infligé pour qu'on se rende compte que ça existait.
Oui.
À part ce système-là qui prend en compte une accumulation de fautes, aujourd'hui, on navigue à vue. Le cas Grosjean, tu le rappelais tout justement, c'est l'exemple typique du problème parce qu'on disqualifie, enfin, on bannit un pilote pour une course alors que c'était sa première erreur. Sa première faute de taille, mais est-ce que ça méritait voilà.
Et en plus, on sait qu'ils ont à leur disposition l'historique des pilotes quand ils prennent leur décision quoi. Ils ont l'historique des décisions et ils ont tout ça à disposition.
C'est pour ça que je pense que s'il y a bien un avantage, en tout cas, peut-être pas dans sa forme, peut-être pas dans la forme qu'on veut lui donner, mais en tout cas, dans l'idée, c'est qu'il y ait cette continuité ce regard porté sur les antécédents des pilotes. Parce qu'aujourd'hui, à part le ressenti contre certains pilotes, c'est-à-dire contre Maldonado et contre Grosjean, Pérez, oui, et encore, enfin, faudra voir le cas Pérez. Enfin, je lui souhaite pas qu'il lui arrive la même chose qu'à Grosjean, mais faudra voir le cas Pérez.
C'est en cours on regarde, quoi, c'est ça le truc.
C'est ça. Il n'a pas été sanctionné une seule fois, hein, pour les manœuvres qu'on a jugées trop dures pour certains. Faudra faire attention, quoi. Faudra bien regarder ce qui se passe après. Est-ce qu'on va tout de suite sanctionner derrière? Enfin bon. Mais je trouve que ça, pour ça, c'est intéressant, quoi. Ça réinstaure une idée d'antécédent, mais je pense pas qu'on peut se passer du système actuel, hein, bien qu'il ait des défauts, mais je pense que justement, permis à point et conteste lui-même, on revient là-dessus, tout a été dit sur le contre, je pense qu'il pourrait permettre de rééquilibrer un petit peu le système actuel, parce que ça créerait voilà une continuité des fautes, peut-être une application plus logique, mais tout en, quand même malgré tout, à côté du pédigré entre guillemets d'un pilote, on aurait quand même des fautes qui sanctionnent, enfin des sanctions qui sanctionneraient, qui viendraient frapper les fautes qui ont été commises, parce que avec un système de permis à points simple, alors évidemment à moins qu'on implique un barème en même temps, mais le problème c'est de tu ne seras pas sanctionné pour la faute que tu as commise immédiatement.
Mais pour ce qui est du suivi, est-ce qu'il n'y a pas des solutions plus simples, hein? Stewart a encore dit qu'il faudrait qu'il y ait des commissaires permanents, parce que à chaque course ils changent.
Ou alors des commissaires qui disent il y a une infraction, qui relève l'infraction, qui certifie qu'il y a une infraction, mais qui ne décide pas de la peine de la peine entre guillemets, et qui transmettent ça comme au football
à une autorité
de discipline, quelque chose dans le genre. En tout cas quelque chose qui ne réagissent pas forcément à chaud, parce que prendre des décisions le dimanche c'est pas forcément non plus c'est pas forcément l'idéal.
Peut-être en effet il faudrait une commission de discipline avec des gens réguliers qui soient là,
qui se réunissent genre le mardi ou le mercredi, genre comme en NASCAR par exemple quand il y a des pénalités, alors c'est soit sur un truc technique mais par exemple aussi
la NASCAR le comportement tu peux pas parce que sinon c'est tout le monde qui
oui c'est sûr Alors, remarque, il suffit que tu dises un gros mot pour prendre un certain point, des fois, donc bon. En tout cas, voilà, il y a la NASCAR annonce souvent des pénalités, soit le mardi ou le mercredi après la course. Pourquoi pas avoir une commission qui, dans le même genre, statue sur les infractions qui ont été constatées, qui soit constituée de toujours les mêmes personnes qui, pour instaurer une continuité de plusieurs personnes pour pas qu'on dise, ouais, mais telle personne même pas, etc. Voilà, qui est une autorité partagée, une décision, qui est pas d'unanimité, évidemment, pour pas non plus qu'il y ait de blocage. Enfin, voilà, quoi. On pourrait un peu imaginer, c'est quelque chose d'ailleurs qui existe dans beaucoup d'autres sports dont on pourrait s'inspirer.
Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, comme tu le dis, à chaud le dimanche, et c'était très palpable sur le cas Grosjean, on était loin de la sérénité de ces moments-là, quoi, de ce qu'il faudrait pour juger correctement ce qui s'est passé, parce que c'est pas l'année
dernière. Parce qu'il y a un choc quand même, parce que.
Bah, c'est pas l'année dernière, effectivement. Ça a été tout le long de la. Enfin, jusqu'à. Et d'ailleurs, la décision était très rapide derrière, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça a pris quoi, à peine 3-4 heures après le Grand Prix pour qu'on décide de le bannir. Enfin, c'est quand même relativement rapide pour le comment,
pour une décision lourde.
Bah, pour une telle décision, pour une sanction aussi lourde. Donc effectivement, peut-être créer, oui, comme tu le dis, un conseil de discipline, un truc comme ça. Ça pourrait être une façon un peu de dédramatiser, de gagner en sérénité sur les décisions qui sont prises.
Pour laisser les fautifs avoir le temps de se défendre aussi.
Ouais.
Parce que finalement, comme tu le dis, t'as le laps de temps de 3-4 heures, t'es convoqué, t'as pas forcément le temps de... t'es à chaud aussi, quoi, comme les commissaires, donc... Tout ce petit monde est un peu sous pression et donc pas le temps de se poser autour d'une table, de se dire bon voilà, il s'est passé tellement telle chose, je pense que telle chose enfin voilà, se préparer quoi.
Ouais,
faire quelque chose de plus structuré et qui dépend toujours des mêmes personnes.
Bah de toute façon s'il y a un système de permis à points qui est instauré je sais pas.
Ouais, mais c'est la même chose. C'est les commissaires qui se réunissent, qui sont différents chaque Grand Prix, qui vont.
Ouais, c'est vrai.
Qui vont s'assurer là-dessus.
Ce système est une bonne idée dans.
Mais il se veut quand même plus automatisé, même si c'est pas les mêmes personnes. Si on dit à chaque fois telle sanction, tant de points, voilà, on est quand même dans quelque chose de plus régulier.
Oui, bah voilà. c'est un peu ça aussi. Hein. On veut enlever le côté aléatoire du système actuel, parce que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Mais Ouais, mais c'est vrai que ce système des commissaires, c'est bien a priori, mais la réalisation est peut-être un petit peu, même si c'est quand même, on remarque souvent les mêmes qui tournent, mais le problème c'est que d'une personne à l'autre, des fois les décisions varient, enfin il y en a qui
après,
sont
beaucoup. Pas forcément que les commissaires pilotes, t'en as quatre. Ouais, non,
commissaires, mais les commissaires, les commissaires aussi qui sont pas pilotes. Mais ouais, je sais pas.
Messieurs, on va passer au gros morceau de l'actu. Il y a même deux actus finalement. On va parler, ouais, on va parler V6, 1.6 litre, turbo, avec un Hertz. Avec l'annonce officielle, c'était presque un secret de polichinelle parce que ça fait des semaines, même des mois, je rappelle. Il y a des mois, on avait parlé, tiens, il y a une rumeur, peut-être que Honda va revenir. C'est officiel, Honda revient en 2015. Ils seront le moteur officiel, hein, ça va être vraiment les partenaires de McLaren, comme à la grande époque. Hein. Vous rappelez que, certes, on reste peut-être sur une image de Honda pas très glorieuse, mais en tant que motoriste, c'est quand même plusieurs... Alors, il n'y a pas de titre de champion du monde des motoristes, mais je crois que c'est sur 5 ou 6 ans, ils ont raflé avec Williams et McLaren plusieurs titres à la suite de champion du monde. Bah, notamment avec le turbo, justement.
86, 87, 88, 89, 90, 91. Donc 6, hein, au moins. Ouais. Au moins 6. Bah sur Honda, il n'y a pas grand-chose à dire. Au final, peut-être que le marché est pas exclusif avec McLaren,
non,
c'est-à-dire
non,
qu'ils pourront avoir...
Alors, d'une part, ils n'ont rien annoncé, ils n'ont pas arrêté, a priori, c'est que c'est possible. Ce qui se dit, il y a eu des articles sur ça, c'est qu'après tout, pourquoi pas. Ils ont dit McLaren en 2015, mais pourquoi pas une équipe en 2014. Moi, ça me paraît court quand même. Hein.
C'est très
ça
court.
Ça paraît très
c'est
court.
Très court.
Hein.
Bah oui,
Et surtout, il y a le fait de pas avoir pesé, comme on a pu le dire aussi dans les précédentes émissions, de pas avoir participé aux réunions.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ils vont pouvoir peser un minimum, sur les spécificités techniques, parce que c'est arrêté. De toute façon, dans une quarantaine de jours, on sera le 30 juin et on pourra plus revenir en arrière sauf raison de sécurité. Et ils auront pas pesé sur la technique du moteur.
D'où l'utilité d'attendre de voir ce que les autres ont.
Voilà.
c'est finalement assez normal. Enfin, moi, je me rappelle quand ils sont partis, je l'avais dit, ils reviendront, ils reviennent. Parce que c'est vrai quand même que Honda, alors ça n'a pas toujours été Honda directement, il y a aussi eu Mugen Honda, mais c'est quand même une... Non, mais c'est vrai, c'est pas directement.
Souvenez-vous.
C'est pas, là encore, c'est vrai, c'est pas forcément très glorieux, mais le nom Honda, quand même, c'est quand même une marque qui a quand même historiquement, enfin, je veux dire, ils en ont passé quand même des saisons en Formule 1. Ils sont arrivés
très tôt dans la discipline.
Oui, dans les années 60. C'est 60. Voilà, ils ont eu déjà leur voiture entièrement constructeur et moteur. Ils sont partis par la petite porte. Ils reviennent avec ce qu'ils font de mieux. Et je pense que là, à moins de la lubie d'un président chez Honda, ils referont pas la même erreur de racheter une écurie. Surtout pas.
Oh, tu me dirais, ils ont été champions du monde, dans un sens.
Oui.
En 2009.
Oui.
Leur argent a été champion du monde,
oui.
C'est beau.
D'après vous, Honda, c'est du solide dès le début, ou faudra peut-être même pour eux attendre avant d'avoir des résultats?
Ça aurait été du solide dès le début s'il y avait eu un gel des moteurs. Mais le problème, c'est que pendant qu'Honda va travailler sur son moteur et peut-être le développer, alors on sait pas où ils en sont actuellement, mais pendant que eux vont continuer à développer leur moteur sans le tester sur la piste, sans pouvoir le tester sur la piste, alors peut-être... Bah non, ils pourront pas, parce que si tu mets un moteur 2015 dans une McLaren de 2014, c'est interdit par le règlement. Ça fait partie des essais qui sont limités au début de l'année.
Mais ça sera 2014. Mais ils peuvent, ils sont malins, on parle de F1. Rien ne les empêche de tourner sur une voie, par exemple, je sais pas, une McLaren de 2012 ou 2013 avec un moteur. On est d'accord, c'est pas le meilleur exemple, c'est pas super parfait.
Il y a des petites failles dans le règlement à ce sujet-là, mais après, ce sera assez mal vu, je pense. Mais bon. Moi, j'avais pensé justement en préparant l'émission à se dire, mais tant qu'à faire, Honda n'a qu'à ressortir ses vieilles voitures et à leur mettre justement le V6 turbo, parce que eux, en tant que motoristes, n'est pas encore engagé dans la Formule 1. Et de toute façon, en tant que motoristes, ils n'ont pas de règlement sportif à respecter, en fait, si tu veux.
Bah, c'est vrai qu'à la limite...
Ils sont pas écurie, donc ils ont pas de... Le problème, c'est que les monoplaces Honda, aujourd'hui, appartiennent à Mercedes.
Ah oui, c'est vrai.
C'est pour ça qu'ils peuvent pas le faire.
Mais non, mais il y a les... Alors, là, on remonte vraiment les barres, les châssis barres.
Ben, c'est des Mercedes aussi, ça. Ça a été racheté par Honda, puis Honda a vendu son écurie à Brown.
Oui, mais attends, ils ont quand même une certaine propriété intellectuelle sur certains châssis. En plus, là, il paraît que
quand ils ont annoncé,
ils ont montré en face du siège de Honda, il y avait ils vont faire ça avec une Formule 1 de 1968. Ça va être super pratique à mettre. un moteur V6 biturbo sur une voiture de 68.
En magnésium. Hein. Ça marche bien, le magnésium.
Le problème, c'est que ça dépend du montage financier qu'avait l'écurie à l'époque, mais ça devait être une filiale qu'ils ont revendue à Brown, mais du coup qui ne leur appartient plus du tout. Alors peut-être qu'ils ont des accords avec Mercedes pour pouvoir
utiliser l'image de leur véhicule, parce que c'est quand même des voitures Honda.
Oui, mais va savoir, je sais pas.
Je serais Mercedes, moi je les revends tout de suite, hein, c'est pas grave, je donne de l'argent avec.
Mais tu sais qu'il y a beaucoup de chocards de chez Mercedes, ils sont des Honda repeints, quoi, c'est le truc absolument incroyable, quoi.
Mais alors, parle beaucoup, voyons ça un peu aussi du côté McLaren, c'est un peu la révolution, parce que ça va quand même être la fin d'un partenariat de 19 ans.
Ouais. La dernière saison va être sympa, je pense.
Ouais, alors là, on se dit bien que tout va être super cloisonné dans l'usine McLaren.
Dis donc, il n'y a pas d'évolution moteur sur ce moteur.
C'est vrai.
Ça va être rock'n'roll. Enfin, rock'n'roll. Ils l'ont déjà fait, hein. C'est pas la première fois qu'ils changent de moteur, mais c'est vrai que passer quand même un partenaire à 19 ans, c'est pas anodin. C'est quand même assez exceptionnel en F1. Je veux dire, à part d'être quand t'es ton propre constructeur.
Non, mais c'est surtout le fait d'avoir une découverte technique avec un motoriste, puis de passer juste derrière avec le suivant. Quoi.
Mais je pense que si Honda avait pu, ils auraient carrément fait le pas l'an prochain.
Mais oui.
Ah bah, je pense que ça aurait arrangé McLaren, ça c'est clair.
Et Mercedes.
Oui.
Oui.
Surtout. Et puis de suite.
En tout cas, si ça merde, entre guillemets, l'an prochain, chez McLaren, les bisbilles qui risquent d'y avoir entre, vous savez, c'est comme quand, BMW et Williams, vous souvenez, c'était la dernière année, que ça marchait pas très bien, et qu'ils se tiraient dessus, disant, non, c'est la faute du châssis, non, c'est la faute de votre moteur.
Alors qu'au final, c'est la faute des pilotes, quoi. Oui. Hitfeld, Weber.
Oui. C'est un peu tout, hein. C'est un package, hein, la Formule 1. C'est
tiens, prenez ça.
Ça risque d'être rock'n'roll. Et avec une séquence qu'on avait évoquée. Souvenez-vous, on a même fait ce sondage, hein. Et d'ailleurs,
top, je crois que c'est top.
Non, mais c'est quand même Martin Whitmarsh. Et c'est en relation, forcément, hein, qu'a dit officiellement. Donc, ça donne crédibilité au truc. Oui, bah, après tout, le orange, ça pourrait être sympa. Alors, il a dit, bon, faudra qu'on voit ça avec le sponsor.
Genre orange.
Oui. Ou Gillette Fusion, hein. C'est orange, hein. Mais donc, on sait de toute façon qu'on saura ça, enfin, puisque c'est aussi les...
Il y a une annonce prévue,
voilà,
en décembre.
Et a priori, voilà, il y aura un nouveau sponsor titre. Ce qui fait d'ailleurs que peut-être que la dernière McLaren Mercedes sera peut-être pas chromée, mais orange, parce qu'ils vont peut-être faire ça dès l'an prochain, en fonction du sponsor titre.
Oui.
Ou alors ils feront un qu'intermédiaire. C'est-à-dire que ça sera chromé, mais là où il y avait les parties Vodafone, ça sera orange. Et puis quand Honda arrivera, ça sera tout orange. Ça peut aussi être un truc comme ça.
Chromé orange, oui.
Pourquoi pas?
Bah oui, pourquoi pas? Redonne-moi du LSD.
En même temps,
quand même.
tu regardes le rouge de Vodafone, il est.
Oui, il tire un peu sur le.
Ouais. Enfin, je suis pas. Un peu daltonien.
Non, mais c'est
je
vrai qu'il est.
Des couleurs, mais il tire un peu
c'est
sur le rouge.
C'est vrai que c'est un rouge qui est beaucoup plus vif, on peut parfois le croire en voyant les photos. On a l'impression parfois que ouais la McLaren ouais bah elle est argentée et rouge quoi. Non, elle est chromée et rouge fluo.
Peut-être qu'ils vont changer leur livrée comme celle de Mercedes à Barcelone.
Ah oui, alors là franchement.
Le changement qu'il y a pas de changement.
C'est moi qui ai fait l'article, j'ai vraiment eu l'impression de me faire avoir.
T'as vu hein, toi aussi.
Et t'as fait cette histoire où tu fais la réservation avant de voir la livrée et tu dis ah merde, j'ai passé pour un jambon.
C'est ça mais putain. Moi je me disais oh, attends ça va péter et tout, ça va être limite chrome machin. Non.
Non, il y a une cible maintenant sur le capot moteur.
Oui, c'est il y a un énorme Mercedes, alors effectivement la livrée a changé.
C'est surtout que moi j'ai vu des Photoshop de trucs qui pourraient ressembler à ce qui allait être fait, et c'était... Enfin, effectivement, tu voyais un changement, mais là...
Ah, sur le coup, en plus, ils peuvent en profiter, enfin, j'ai envie de dire, chez Mercedes, allez-y l'an prochain, quoi. Je veux dire, c'est quasiment sûr, ils vont abandonner le chrome chez McLaren, c'est bon, vous pouvez y aller sur le chrome sur la Mercedes, c'est vous les flèches d'argent l'an prochain, quoi. Ou d'ici deux ans.
Ouais, mais quand tu regardes les premières Mercedes, c'était pas chrome. Puis même l'histoire de Mercedes en endurance, dans toutes les disciplines dans lesquelles ils sont, c'est rarement chrome. C'est un gris,
c'est gris clair.
Clair.
Oui,
c'est
mais parce qu'à l'époque, clair, les peintures ne le permettaient pas. Si McLaren a pu le faire, c'est parce qu'il l'avait dit, parce qu'ils avaient élaboré une peinture spécifique pour permettre ce style.
Mais à l'époque, au tout début, c'est justement parce qu'ils peignaient pas les voitures, qu'ils étaient en aluminium nu que c'était de cette couleur argentée.
Ouais, mais quand tu regardes aujourd'hui, qui pourraient très bien faire des voitures chromées, en général, elles sont d'un gris clair, mais pas chromé. Tu regardes le safety car et
gris
clair.
Mais le problème, c'est qu'en F1, le gris chromé, c'est devenu associé à McLaren.
Ouais, non, mais c'est vrai aussi. Mais de toute façon,
en même temps, si elles ressemblent déjà plus au safety car, en effet, ça serait déjà pas mal. Parce qu'elles sont déjà beaucoup plus, elles ont déjà plus un aspect métal, que la McLaren, que la Mercedes, actuellement.
On va savoir si justement, la Mercedes SLS, elle est pas directement aussi en métal nu, quoi. C'est pas.
Le mec, il gratte tous les soirs.
Mais en tout cas, je soupçonne la sortie de Martin Whitmarsh, c'est sans doute pour tester le truc. Bon, voilà, on lance l'info, on regarde un peu comment les fans réagissent. Je pense...
Moi, comment tel mec se va vous...
Voilà, c'est pas impossible en plus.
C'est marrant, mais moi j'aimerais bien, mais j'y crois pas, hein, tant qu'ils vont faire orange.
Pensez à quelque chose d'une autre couleur, ou un truc... ou même rester sur les couleurs actuelles.
Je sais pas, en fait, j'arrive pas à m'imaginer.
Mais ça fait tellement longtemps, c'est ça. Hein.
C'est assez malheureux parce que autant t'as certaines écuries, t'associes directement à des couleurs spécifiques. Enfin, je veux dire, Lotus, même si Lotus, c'est, enfin bon, le Lotus d'aujourd'hui, c'est vrai que noir et or, il y a une continuité historique. Ferrari, on n'en parle pas. Mercedes, c'est pareil, même si c'est pas forcément la même couleur.
Ça reste gris.
McLaren, ils ont eu plusieurs époques. Et alors, c'est vrai que la dernière nous influence beaucoup, celle du chromé. Nous influence beaucoup, mais c'est vrai que t'as eu l'époque des noirs et rouges, rouge et blanc.
C'est Jeanne Masse qui t'a piraté.
Voilà, j'exhibe ma peur. et voilà, non mais ou le orange du début. Enfin, c'est difficile. Pourtant, voilà, c'est quand même aussi une écurie historique, mais je sais pas. J'arrive pas à m'imaginer. Mais est-ce qu'ils vont faire du changement? Est-ce qu'ils vont faire un vrai changement? Je sais pas.
Non, mais si tu regardes les livrées de McLaren, ça a toujours été à part le tout début quand elles étaient orangées, mais à l'époque il n'y avait pas encore de sponsor sur les voitures. Maintenant, les aspects commerciaux sont tellement importants que je pense qu'effectivement ils mettront du orange que si le sponsor avec lequel ils ont signé, si ça rentre dans sa charte graphique. Sinon, y a, à mon avis, il y a très peu de chances que ça soit.
Mais en même temps, ça permettrait de vraiment distinguer... voilà, quoi. Orange, il y a que, quoi. Il y aurait que. Ça, c'est sûr.
Bah oui, il y a plus Spiker.
Oh putain, quelle comparaison.
Oui, alors, si la seule truc pour différencier, c'est la couleur, c'est qu'il y a un gros problème. Pardon, sur la
mais
prochaine.
Mais il y a une année où c'était oui. très difficile de loin de distinguer les McLaren des Force India parce qu'elles avaient l'aileron rouge. Enfin, c'était très compliqué de loin. La première année de Force India, je crois, ben, en 2008. Et puis en plus, il y avait beaucoup de monoplaces blanches à cette époque.
Ouais, le blanc, bleu, blanc, ou blanc et rouge, ou blanc et bleu, c'était un
ouais, problème. Ouais, ouais.
Et donc, cette actu moteur a induit hein, une autre actu, puisque après le retour de Honda, hein, qui fait quand même plaisir à tout le monde, hein, faut le dire, à beaucoup de monde, sauf chez Mercedes, Bernie l'a dit, bah, écoutez, si Honda revient, BMW, ils peuvent revenir, Toyota, ils peuvent revenir, et eux, ils ont dit, non, pas du tout. Non, t'es gentil, Bernie, mais non.
Bernie nous fout pas de la merde.
Bah, BMW, en tout cas, c'est clair, ils s'en sont expliqués, disant qu'ils sont très contents là où ils sont, soit en DTM, en ALMS, ou autre. Toyota, c'est quand même plus ambigu. Déjà, c'est une déclaration assez courte. Et surtout, on ne sait pas s'ils parlent en nom de Toyota le groupe ou de Toyota
c'est,
la marque.
C'est toujours
parce
le même
qu'au problème. Final, c'est Lexus qui devait être concerné. Et si ça se trouve, ils ont joué sur les mots pour dire non, Toyota ne reviendra pas. Mais ça ne veut pas dire que Lexus ne va pas le faire.
Donc, vous y croyez même sous un Lexus ou quelque chose comme ça?
Toyota, moi j'avais déjà eu l'occasion de dire que non, j'y croyais pas. En tout cas, pas dans le futur proche.
Ouais,
hein,
peut-être pas 2014 ou 2015.
Ça c'est sûr. BMW, alors là, pas du tout. Enfin, on n'a pas tellement entendu de bruit, même si apparemment ils répondent à des bruits eux, mais c'est quand même pas les plus gros bruits. Enfin,
c'est Ecclestone qui s'est fait plaisir.
Ouais, ouais, voilà, non, mais c'est ça, je pense que c'est du Bernie craché, quoi. Il y a un truc, bon bah voilà. C'est Bernie, quoi.
Ça prend une ampleur.
Puis BMW, voilà, enfin BMW, en plus, ils sont très heureux là où ils sont. Enfin, je vous y crois pas. Toyota, franchement, oui, pas un horizon très, très, très proche.
Messieurs, on va revenir sur le sondage du dernier mag. Est-ce que vous vous souvenez quel sondage nous avions proposé à nos chers auditeurs?
Ouais, c'était un sondage géographique.
Oui!
Oui.
Nous vous avions demandé tout simplement où aimeriez-vous voir arriver la Formule 1 dans le futur, après tout. Hein. Quitte à aller dans des destinations de merde, autant qu'on les choisisse. Vous avez été 80 à voter, merci à vous. À égalité, au fin fond du classement, avec 2 votes, on retrouve la Mongolie et Fessenheim. Donc non, vous voulez ni les déserts, ni les centrales nucléaires. Hein. Avec 4 votes, on trouve le Groenland. C'est dommage, ça aurait été sympa, sous la neige et tout, ouais.
Là, il y aurait pas eu de problème de surchauffe.
Avec des pingouins et des ours bipolaires.
Mercedes aurait gagné ce Grand Prix.
Oui.
Avec 5 votes, à égalité, on trouve le Pays des Merveilles et Malte.
Ah oui.
Et oui.
Eh ben.
Et enfin, le groupe de tête, hein, on trouve avec 9 votes le Grand Prix de Suisse au Mali. 10 votes l'Alpe d'Huez. Ça, c'est les gens qui veulent un retour du Grand Prix de France.
Ou le début du Tour de France, c'est...
Ou le début du Tour de France. 12 votes pour la Lune. Vous avez été 14 à préférer un circuit urbain au Vatican.
Oui.
La chapelle Sixtine.
Mais donc, à la première place, avec 17 votes, 21,25%, donc c'était quand même assez éparpillé les votes. Vous avez préféré l'alternance entre la Corée du Nord et l'Iran.
Ouais, mais je crois que les gens ont du goût.
Allez, soit. J'appelle Bernie.
C'est sûr que Bernie serait super d'accord.
Donc, on a un projet à te proposer. Alors, c'est une alternance, hein, mais tu t'en fais pas. Les deux pays ont les ressources.
Pyongyang, Téhéran. Voilà, c'est...
Le Grand Prix nucléaire.
Ah oui, ça serait beau, non, en fait.
C'est pour ça que c'est étonnant que Fessenheim ait pas autre plus de votes.
Oui, c'est ça. C'était très atomique comme sondage.
On va passer aux actus dont tout le monde se fout.
Ah, enfin.
Il n'y en a pas pour longtemps, au moins.
J'aurais voulu en choisir 5 que j'aurais pas pu. Puisque l'on trouve Génie Capital qui vend, attention, hein, ils se désengagent complètement de l'équipe. Hein. Ils ont vendu 2% de l'équipe.
C'est moi qui l'ai mis parce que je trouvais...
Et Ben aussi,
ouais.
Et moi, parce que fallait bien que j'en trouve une cinquième. Mais en même temps, ça changeait rien, donc...
Ouais. Non, mais parce que je trouvais ça assez surprenant de voir, parce que si tu ramènes 2% de l'écurie pour 1 million de livres, ça fait à peu près 59 millions d'euros pour la totalité. Déjà qu'il lui a fait un peu un prix d'ami, parce que c'est un ami, hein, faut dire, à qui Jenny a revendu des départs. Enfin, je trouvais ça très peu par rapport au passé et au prestige de l'écurie, enfin en tout cas de son nom et l'historique prestigieux. Il y a quand même pas n'importe qui est venu dans l'équipe qu'est Lotus, traverse différentes formes de Tolman jusqu'à Lotus aujourd'hui. Je trouvais ça que c'était peu, même si tu prends en compte la mauvaise santé financière de l'écurie, parce que c'est une situation qui est assumée quand on lit l'article par Gérard Lopez, parce qu'ils disent que il y avait millions de pertes, mais ça permet à Jenny de faire d'autres revenus ailleurs, donc au final il s'y retrouve dans les transactions. Et du coup, moi, ça me faisait poser des questions sur les écuries qui étaient encore plus modestes, sans aller forcément jusqu'à Marussia et Caterham, des écuries comme Sauber, comme Force India. Enfin, c'est des écuries qui, du coup, valent pas tant que ça. Je trouvais ça très peu, en fait.
Bah, le problème, c'est que la ligne de flottaison, visiblement, elle est au-dessus de Lotus.
Ouais.
Et que ça fait pas beaucoup d'équipes au-dessus de Lotus, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Il me semble qu'on en avait déjà parlé. Enfin, pas sous cet aspect-là, mais que, de toute façon, il y avait 4 écuries qui s'en sortaient, et puis le reste était, de toute façon, en perte, enfin, en déficit. Enfin, c'est une réalité, et c'est malheureux que ça frappe une écurie qui soit en capacité, semble-t-il, en tout cas en ce début de saison, de jouer les premiers rôles. C'est très révélateur aussi d'une certaine évolution de la discipline, parce qu'aujourd'hui, tu fais une voiture qui... Tu peux rater, comme Mercedes, tu peux rater une voiture pendant 3 saisons et être dans les clous. Et tu peux par contre aussi avoir une très bonne voiture et être en difficulté financière. C'est là aussi, il y a peut-être quelque chose à retravailler de ce côté-là.
Le plus surprenant peut-être dans les équipes qui marchent, c'est peut-être McLaren. Parce que c'est vrai que Red Bull, leur premier métier, c'est de vendre des canettes et que ça marche bien. Vu dans le groupe, ça peut fonctionner. Ferrari, il y a le groupe Fiat derrière, et puis la société Ferrari en elle-même. Je crois même qu'ils vont limiter le nombre de voitures, parce que, tu comprends, faut quand même que les Ferrari, ça reste du luxe.
Oui.
Hein, ils vont limiter le nombre de... Ouais. Eux, volontairement, ils vont baisser leur production, hein, pas comme les autres. Mercedes, bon, bah, c'est pareil, hein, il y a le constructeur automobile. Alors que McLaren, c'est vrai que, bon, il y a le constructeur automobile McLaren aujourd'hui, mais c'est quand même beaucoup plus restreint. C'est peut-être celui qui est le plus étonnant, alors que Lotus, en effet, le propriétaire, c'est Genie Capital, qui est une société d'investissement. Il n'y a pas une société qui fait de l'argent, qui fait de l'économie, qui permettrait de soutenir l'équipe. Et quand tu regardes en dessous...
Bah, il y a Williams qui se diversifie, du coup, en commercialisant ses solutions de KERS, là, de les vendre à Audi. Je crois que ils ont réussi aussi à le vendre à des compagnies, des constructeurs de tramway. Je crois qu'ils ont un partenariat avec Alstom là-dessus pour mettre, ouais, un KERS sur des tramways.
Leur fameux système de KERS avec une roue, là.
Oui, le Flybrid système. Mais ouais, c'est sûr qu'à part si t'as une grosse société derrière ou que tu te sers de tes compétences de constructeur de Formule 1 avec une certaine technologie pour la revendre pour d'autres applications, effectivement, t'es pas il faut assurer son avenir avec les revenus des droits télé et des sponsors et c'est tout, quoi. Il y a aucune autre rentrée d'argent possible.
Ensuite, on a une actu citée par Ben sur un pilote d'Iresta. Il aime beaucoup Vettel.
Ah oui.
Qui aime énormément Vettel, puisque pour dire Resta, le champion 2012, c'est Alonso.
Il y a un moment, il va falloir que ce soit les acteurs de la discipline ou les fans, ne remettent pas en cause les règles, quoi. Il y a un système pour désigner un champion, c'est à base de points. Voilà, le champion 2012, il faut que tout le monde se le mette dans la tête, même les supporters de Ferrari, d'Alonso, n'importe qui, c'est Vettel, et il y a rien qui puisse aller contre ça, quoi.
Ce qui est fou, c'est que c'est un pilote, parce que tu sais, les fans, les discussions de fans, voilà.
Oui,
ça peut aussi bas où ça peut aller, mais
oui, oui.
Là, effectivement,
là, c'est quand même un pilote, quoi.
Que ce soit un des 22 acteurs qui nous dit ça. Alors après, on sait très bien que il aimerait bien évoluer dans sa carrière.
Oui, c'est un peu touché, là.
Vu les perspectives, sa seule façon d'évoluer, ça doit être d'acheter une combinaison rouge, hein. Donc du coup, est-ce que ça sent pas un peu le petit léchage, hein, envers Ferrari, je sais pas, mais voilà, quoi.
Non, mais ça fait pas très.
Ça fait pas très pro.
Ça fait pas très. Ouais, ça fait pas pro du tout. Enfin, c'est même pas. Puis je sais pas, si tu veux faire de la lèche, je sais pas, il y a des trucs plus. Enfin, je vois, il y a des trucs plus moins gros à dire. Je sais pas moi.
Tu manges avec lui, tu envoies des photos sur Twitter, voilà. On sait comment ça marche, quoi.
Par exemple.
Puis on sent qu'il y a un contentieux quand même, qu'il l'a mauvaise de la F3
où
il l'a battu, je crois. Hein, c'est en 2006, genre. Et qu'effectivement derrière, il a pas connu la même carrière, mais après. Chacun mène sa barque comme il peut, hein. Il peut, à la limite, il peut s'en prendre qu'à lui-même de pas avoir connu une carrière plus fulgurante. Hein. Je crois qu'il a fait du DTM, dirais-je ça.
Oui. C'est même étonnant qu'il ait fait du DTM avant de passer à la F1. C'est assez unique.
Il en veuille à Mercedes de pas le prendre, d'avoir pris Hamilton à sa place, hein, à la limite. Plutôt que d'en vouloir à Vettel qui a rien fait pour que sa carrière avance pas, quoi, enfin.
Et enfin, dernière petite actu. Oui, c'est vraiment pas long cette semaine, hein. Voilà. On va parler salaire avec Hamilton et Alonso, les pilotes les mieux payés de la F1. 20 millions chacun. Alors là, on parle des salaires. Hein. Il n'y a pas en plus tous les revenus publicitaires.
Ouais.
À l'autre bout, hein, on a égalité Max Chilton, Charles Pic et Guido van der Gaard qui sont à 150 000 euros.
Ah bah ça, ce sera mon actu dont je me fous, ça.
Ouais. Alors tu vois, je te trouve un peu dur. Hein. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui ai fait l'article.
Non, mais...
Et quand même noter hein, que le salaire de Kimi Raikkonen n'est que de 3 millions, il n'est que 8e. Hein, ce qui est quand même assez étonnant qu'on connaît la taille des salaires de Kimi Raikkonen avant qu'il parte en WRC.
Mais ça, c'est les bases fixes. Après, je crois que Raikkonen a une part variable assez importante.
Apparemment, c'est 40 000 euros par point.
Voilà. Ouais, c'est ça.
C'est bien. c'est très bien en ce moment.
Il va en marquer à peu près 200-300... Il en a marqué une centaine, là, déjà. 8 millions d'euros de bonus.
Tiens, là, j'ai le classement. Je vais vous donner les chiffres. C'est que les fixes, hein. Il n'y a pas les bonus, hein, et tout ça, et autres salaires en plus. J'ai les listes, j'ai les chiffres. Vous allez me dire, ils sont trop ou ils sont pas assez payés?
Oh là là, ce truc des
mais oui,
on n'est pas
mais
sur
oui,
RMC,
mais
là.
C'est pour ça que c'est drôle. Donc, Alonso et Hamilton, c'est 20 millions.
Appelez-nous au 3216.
Ah. Trop ou pas assez? Sans rentrer dans les détails, hein, vous me dites juste, c'est pas assez, c'est trop.
C'est le prix du marché, hein, on va dire.
Parce que regarde, t'as Jenson Button qui est troisième, il est à 16 millions. C'est pas un peu trop quand même pour Jenson Button?
Mais lui, il négocie bien quand même. Il a bien négocié.
C'est vrai. Bah c'est l'argent qu'ils ont pas donné à Hamilton, ils ont dit bon, autant qu'à faire. Hein.
Mais non, mais parce que justement, l'année dernière, ils étaient tous les deux à 16, je crois, un truc comme ça. Justement, c'est ça, le truc, c'est que lui, il l'a négocié dès le départ, quoi, ces 16 millions.
Ah bah c'est l'équité selon McLaren.
Mais ouais.
Kovalainen, mais... il était payé pareil qu'Hamilton.
Ouais, c'est sûr.
Un peu de choses près.
Mais ce qui est étonnant, c'est que Alonso, par rapport au classement de l'année dernière, a perdu 10 millions.
Oui, mais il a fait une réduction de salaire.
En rémunération, c'est énorme.
C'est énorme.
Donc c'est là que tu te dis que oui, il gagne trop, parce que si tu perds 10 millions...
En même temps, il a peut-être plus de primes, hein. C'est le fixe hein, qui a changé.
Oui,
dit qu'au final, il s'y retrouve pas.
Après, c'est ça qu'on pourrait peut-être reprocher aux pilotes, de se faire payer 10-20 millions. Moi, je serais pilote, alors je suis pas pilote, etc. Peut-être qu'au bout d'un moment, l'argent te monte au nez, je sais pas. Mais quand tu sais que plusieurs millions, c'est peut-être plus d'heures en soufflerie, c'est plus de personnel qui peut travailler sur ta monoplace, pourquoi pas ne pas te dire, bah, je vais laisser un peu de mon salaire pour avoir une meilleure voiture, parce que quand... peut-être que c'est ça, en voyant Alonso que... l'année dernière, sa monoplace était pas non plus, était pas la meilleure, hein. Peut-être qu'il s'est dit, bah, tant qu'à faire, autant que j'abandonne, que je donne un peu de lest là-dessus, comme ça, on pourra peut-être faire une meilleure voiture, la développer plus longtemps.
Parce que, quand même, quand on regarde la liste, bon, vous voulez pas jouer le jeu, mais je vais quand même donner la liste. Il y a quand même des...
Oh, on veut bien jouer le jeu,
non,
mais...
Quand on voit les écarts entre certains coéquipiers et même entre certaines équipes, troisième place, donc j'ai dit Jenson Button, 16 millions, Vettel, qui est à 12.
Non, mais de toute façon, on sait pas d'où sortent ces chiffres, en fait. C'est le business GP Book, je sais pas quoi, mais on sait pas d'où ils viennent, comment ils calculent leur... C'est des estimations.
Rosberg, il serait à 11, soit près de deux fois moins qu'Hamilton.
Ouais, mais il gagne un peu plus que l'année dernière, Rosberg.
Massa, qui serait à 6, comparé au 20 d'Alonso.
T'oublies Weber, non?
Oui, Weber, il est à 10 millions. Oui,
c'est très révélateur,
tout à fait. 10 millions, c'est presque autant que Vettel.
Ils retiennent le quart sur son salaire.
Tous les embrayages et tout. C'est... Non, mais c'est la première année où il y a une dissociation de ce que l'équipe donne. Mmh. Avant, c'était par égal. Et là, maintenant, il y a 2 millions de plus pour Vettel.
Ou alors, tiens, pour parler des gros écarts, Sergio Perez, bon, en même temps, c'est pas ils ont pas la même expérience. Sergio Perez, 1,5 million. Ça, c'est du fric. Là, ils ont vraiment économisé du fric en libérant Lewis Hamilton.
Bah oui, mais ils ont fait une voiture de merde. Les mecs, ils savent pas utiliser l'argent. Qu'est-ce que je te dis ?
Même si les chiffres sont pas exacts, on se doute bien qu'ils coûtent pas 20 millions, hein, Sergio Perez. Hein.
Ouais.
En tout cas, on note que tous ont un salaire. Aucun n'est crédité de 0 euros. Notamment ceux qui arrivent avec des valises. Comme quoi.
Bah après, c'est. Et le sponsor paye le pilote quand oui. même, quoi. Mmh. Même si c'est pas l'écurie qui le paye. Hein. D'ailleurs, Alonso, c'est Santander qui le paye, il me semble.
Après, il y a quand même il reste encore des cas de stricte égalité, puisque chez Caterham, ça serait pareil. Chez Toro Rosso, chez Force India, il y a un petit écart entre Sutil et Di Resta, l'ordre de 100 000 euros. C'est à peu près tout. Sinon, la plupart, oui, il y a déjà un écart plus conséquent. Bottas, il s'en tire bien, hein. Il serait 13e du classement.
Ouais, c'est mieux qu'en qualif, en tout cas.
Oui.
C'est vrai qu'il y a des écarts étonnants.
Donc voilà, c'était tout pour les actus dont on se fout, messieurs. Et, comme d'habitude, il faut qu'on propose un sondage à nos auditeurs.
Ça va être dur, là.
Sondage RMC. Trouvez-vous que les pilotes de Formule 1 sont trop payés. C'est parti.
Envoyez oui ou non 7-32-16.
Moi, je suis tenté de proposer ça.
Non, le truc démagogique. Alors, un sondage.
Vous voulez que je vous redonne les actus qu'il y a eu ?
Oui.
Ça peut peut-être vous inspirer.
Ah oui, oui.
On a besoin, là.
C'est pas non plus comme si la liste était délirante. Alors, je rappelle que dans le quiz, on a parlé de Batmobile. Précise, hein. Je n'influe pas, je précise juste qu'on en a parlé.
Je n'influe pas.
Vas-y, impose-toi.
C'est juste pour dire qu'on en a parlé. On a parlé des changements de Pirelli, de Honda qui revient, et de BM et Toyota qui ne reviennent pas, du permis à points en Formule 1, de James Allison qui part et de Paddy Lowe qui arrive, de Gini qui vend 2% de Lotus, de Di Resta qui estime qu'Alonso est le champion 2012, et bien sûr donc de Hamilton et Alonso qui sont les pilotes les mieux payés.
On peut proposer qui sera la prochaine personne à arriver chez Mercedes ?
Ouais, ça peut être pas mal ça.
Genre Obi-Wan.
Dinosaure.
Barack Obama, tout ça.
J'ai bien envie, en plus, tu sais, de mettre en question du sondage. Après, Aldo Costa, Niki Lauda, Toto Wolff, Lewis Hamilton, Paddy Lowe. Tu sais, mettre toute la liste. Qui imaginez-vous arriver chez Mercedes?
Oui. Oh, bah, ça se tente, ça.
Donc là, après Paddy Lowe, Niki Lauda, Toto Wolff, Aldo Costa, Bob Bell, Geoff Willis, Ross Brawn, Nick Fry, Lewis Hamilton. Ça compte. Est-ce qu'on a oublié un grand nom?
Schumacher.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'il devient, d'ailleurs?
Alors, moi, vu tout le nombre de personnes que je veux que dans un des choix, il y ait José Mourinho.
Ouais, non, mais clairement.
Parce que...
Colin Chapman.
Oui, on peut le mettre, ouais.
Nelson Mandela.
Ah oui, non, mais il nous faut des grands noms, hein, donc ouais. Hein,
Batman. Batman. Pas de la Batmobile.
Donc, je rappelle, on a déjà José Mourinho, Colin Chapman, Batman et Nelson Mandela.
Obi-Wan Kenobi, bien
ouais,
sûr.
Oui, bah, évidemment. Il est de toutes les fêtes, là.
Steve Jobs.
Oui.
Oui.
Un premier.
Oui, on sait, il est mort. Mais c'est pas grave, c'est Mercedes.
Colin Chapman aussi, hein, juste. Si vous avez pas réagi jusque-là, vous avez loupé l'épisode.
Qu'est-ce qui devient?
Allez, il nous manque 4 noms.
Bah, on a déjà 6.
Bah ouais, Mourinho, Chapman, Batman. Oh, ça arrive en plus. Obi-Wan, Nelson Mandela et Steve Jobs.
Ah, il faut quelqu'un en Han.
On en a déjà 3.
Gengis Khan. Le truc, ça devient poétique. Bah, avec une telle équipe, moi je dis, il faut quand même un leader qu'on a, Sylvester Stallone.
Ah oui.
Ah bah, attends, The Expendables.
Dans le même genre d'idée, il y a Chuck Norris.
Ah mais oui.
Ouais. Non, Walker Texas Ranger.
Cordell.
Ah, attendez, faut qu'on fasse un choix, c'est Chuck Norris ou Cordell Walker.
Ah, c'est pas pareil.
C'est pas pareil.
Ouais, C'est-à-dire que là, Chuck Norris, c'est la victoire assurée pratiquement.
Bah oui, c'est ça le truc. Ouais. Ah, même un peu Cordell Walker. Hein.
Bon, bah alors, mets James Trivette.
Lorenzo Lamas.
Oui! Le rebelle!
Il n'y a pas beaucoup de gens qui auront la référence, hein, par contre.
Ouais, là.
Je vais même préciser Lorenzo Lamas, entre guillemets, le rebelle.
Et sa moto.
J'ai bien envie de mettre le type qui a inventé la friteuse. Mais textuellement, c'est le type qui a inventé la friteuse.
On fout au point où on en est.
Bah oui. Je me rappelle qu'on a Batman et Nelson Mandela.
T'as pas une marque de congélateur pour qu'ils mettent les pneus?
Ah putain, oui, on n'a pas pensé à ça.
Le type qui a inventé le congélateur. Ou le frigo. Vous préférez le congélo ou le frigo?
Congélateur, au point ils en sont.
Il en reste un, je rappelle. Hein. On a José Mourinho, Colin Chapman, Batman, Nelson Mandela, Obi-Wan Kenobi, Steve Jobs, Sylvester Stallone, Lorenzo Lamas et le type qui a inventé le congélateur. Plus qu'une place. Elle vaut très cher. En plus, c'est une place chez Mercedes.
Surtout qu'ils vont tous être engagés au final. Oui. Bon, certains vont avoir du mal à signer le contrat, c'est sûr.
MacGyver.
Ah mais oui.
Ah bah oui.
Donc cette semaine, pour le sondage, nous vous proposons, après Paddy Lowe, Niki Lauda, Toto Wolff, Aldo Costa, Bob Bell, Geoff Willis, Rose Brown, Nick Fry, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, qui pourrait bientôt rejoindre l'équipe Mercedes. Vous aurez le choix entre Batman, Colin Chapman, José Mourinho, le type qui a inventé le congélateur, Lorenzo Lamas, le rebelle et sa moto, c'est important avec sa moto, MacGyver, Nelson Mandela, Obi-Wan Kenobi, Steve Jobs et Sylvester Stallone.
Sérieux, Shinji, s'il te plaît, un peu de sérieux. C'est un sondage estampillé et savé, c'est-à-dire qu'il y a de la qualité, il y a de...
Mais si on va passer aux citations.
Oh merde, oui. Ah. Oh, on est que trois quand même, si, bon.
Alors, mais moi j'ai une citation de Paddy Lowe, justement, en rapport avec... C'est juste la première phrase qu'il prononce, en fait. Je suis excité d'intégrer une organisation aussi talentueuse et compétente. C'est tout.
Il va chez Mercedes,
De comment. Oui, rappelons qu'il va chez Mercedes.
C'est pas grave, Batman lui apprendra tout. Moi, je vais citer Bernie Ecclestone. Je n'ai encore rien fait en rapport avec toutes ces affaires. Je ne m'en suis pas occupé. Si je dois m'en occuper, alors je m'en occuperai à ce moment-là. D'ailleurs, je suis innocent, hein. Comme Flavio. Flavio, il était innocent. Hein. Bah, moi, je suis innocent.
T'en as pas rajouté un peu
d'ailleurs. Un petit peu. C'est pas vrai, Flavio, il est innocent, hein. Lui, il a dit,
comme l'enfant
il lui a dit,
mettre.
Nelson, tu te prends le muro, 14e tour. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait au 15e tour. Vous voyez bien, c'est pas de sa faute.
C'est pas
t'imagines, ça faisait 5 tours qu'il essayait, en fait, piquer.
Sacré Bernie. C'est toujours, c'est toujours faire Gripkowski.
Ouais. Ouais, toujours.
Toujours. C'est bien.
Ça se rapproche, quand même.
Je me dis qu'il sera peut-être pas là au Grand Prix d'Allemagne.
Oui. Oh, bah tiens, elle est bien, celle-ci. C'est une citation de Takanobu Ito, hein, qui est donc le président de Honda.
Eh oui,
que tu ne connaissais pas il y a 5 minutes.
Écoute, quand on fait bien son travail, écoute, on connaît Takanobu Ito, hein, qui est né à Kyoto en 1944. Donc, bref, il dit nos jeunes, oh là. Enfin, c'est pas ce qu'il dit exactement. Il dit « Nos jeunes ingénieurs... » Oh là là.
Les ingénieurs.
Nos jeunes ingénieurs. C'est parce qu'ils zozotent un peu, Takanobu. La journée a été longue. Alors, nos jeunes ingénieurs... Oh là là. Mais vous savez que c'est un traumatisme d'enfance. J'ai beaucoup été chez l'orthophoniste pour ça. Et je vois que je retombe dans mes travers. Donc, alors, finalement, nos ingénieurs qui sont jeunes, ceux qui feront l'avenir de Honda, ont commencé à exprimer leur passion pour relever le défi de la course en Formule 1. Et moi, je dis c'est bien, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup sur McLaren Honda cette résurgence du passé, c'est-à-dire cette vision d'un passé qui était glorieux, mais d'un passé qui reste le passé. Et donc là, Takanobu, il nous ouvre une voie vers l'avenir et un nouvel avenir. Une nouvelle page va s'écrire et ça ne sera pas la page des années 80.
C'est vrai que c'est la vérité, ça sent pas du tout le message corporate.
Bah, pas du tout. Tu connais très mal Takanobu.
Non, pas du tout, c'est pas son genre. Sacré Takanobu.
On va quitter les ingénieurs.
Non.
Pour passer au répondeur, ça rime, hein, c'est génial. C'est bon. Hein.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
On a reçu plein de choses au répondeur. Alors, Quentin, tu nous as envoyé une question. Hein, on la fera pas cette semaine. Parce que j'ai envie de dire tout simplement, Gus, il peut pas faire 2 questions. Hein?
C'est surtout que Fab, il peut pas faire une question.
Essayez de diversifier, ne faites pas des questions trop techniques.
Ouais.
Faites des questions sur des vibreurs, par exemple.
Non, et puis il faut pas qu'il abuse, Quentin, il a gagné un casque, c'est lui qui a gagné le casque.
Non, il a gagné une casquette.
La casquette.
S'il te plaît, une casquette.
Ça va, il la ramène pas.
Ouais, en plus là, tu peux l'utiliser en ce moment, sa casquette.
Pour te protéger de la pluie.
Non, mais en plus, j'ai regardé les cadeaux, c'est vachement bien, on a appris plein de trucs en relation avec la pluie, c'est magnifique. Donc, nous avons une question de Rémi, une question sonore, et la voici.
Bonjour le SAV. Pour l'année 2014, on parle surtout de l'évolution technique des moteurs. Cependant, je suppose que d'autres modifications au règlement technique sont prévues. Je voudrais donc savoir quelles sont ces futures modifications et quels impacts ils auront, que ce soit sur le plan esthétique ou sur le plan technique et performance. Merci.
Et donc Rémi, hein, forcément une question technique. Comme par hasard, Gus est là, c'est
oui.
Magnifique.
Eh bien, mon cher Rémi, on parle beaucoup des changements sur les moteurs, mais effectivement, ce ne seront pas les seuls changements pour 2014. Voici la petite liste que j'ai pu te dénicher à partir des règlements qui sont disponibles, je rappelle, publiquement sur le site de la FIA, FIA.com.
C'est ce qui a été fixé au mois de décembre dernier, donc. Hein,
oui, sachant qu'il y avait une version précédente qui était publiée même en juillet 2011, donc ça date pas d'aujourd'hui, quoi. La première chose qui est modifiée par rapport aux monoplaces actuelles, c'est les échappements, c'est la modification la plus importante. On va bouger les localisations possibles de sortie des échappements, on va les mettre plus en arrière au niveau de là où sont les sorties d'air chaud sur la voiture, donc c'est proche de l'aileron arrière en fait, à peu près au même niveau, au niveau de l'axe des roues si on regarde la voiture de côté. On va les mettre un peu plus haut, alors je crois que c'est entre 350 et 550 mm du plan de référence de la voiture, c'est le dessous de la voiture. Et on va les mettre plus proche du centre de la voiture. De cette manière, on pourra pas placer les échappements au même endroit aujourd'hui, c'est-à-dire à faire en sorte qu'ils soufflent sur les côtés du diffuseur pour sceller le diffuseur, c'est-à-dire pour empêcher que le flux d'air sur le dessus passe par en dessous. On injecte les échappements à cet endroit-là pour que ça fasse une sorte de barrière, parce que les échappements sont injectés à haute vitesse, donc avec beaucoup d'énergie, qui fait qu'il peut pas se former de tourbillon et que le diffuseur gagne en efficacité, et donc du coup ce sera plus possible, parce que les échappements pourront plus faire ça, ils seront plus au centre de la voiture, et ils pourront pas influer avec le diffuseur. Dans le même temps, autour des échappements, on va avoir une zone différente d'exclusion où on pourra pas avoir de carrosserie. C'est-à-dire que dans le prolongement des échappements, on pourra pas avoir de carrosserie, ce qui fait que sur un cylindre en fait, on prend les échappements, on les agrandit, je crois de 2 cm, et dans cette zone-là qui part des échappements et qui va jusqu'à l'arrière de la voiture, on pourra pas avoir de carrosserie, ce qui fait que ça limitera l'effet Coanda. On pourra pas avoir une surface aérodynamique qui fasse qui dévie efficacement le flux d'air vers l'endroit où on le veut. Il y aura toujours un peu d'effet Coanda si on se débrouille bien, mais ce sera pas autant qu'aujourd'hui. Donc du coup, les échappements auront beaucoup moins d'importance qu'actuellement. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la monocoque et le nez à l'avant de la voiture. D'une part, l'avant de la monocoque sur lequel on vient de fixer le nez, va devoir s'abaisser d'une dizaine de centimètres au maximum. C'est-à-dire que, en avant de l'ouverture du cockpit, jusqu'à maintenant, on pouvait avoir une coque qui reste à une hauteur de 625 mm par rapport au plan de référence. Donc toujours le bas de la voiture, le dessous de la voiture. Ce sera toujours la même chose en 2014, sauf que le point le plus en avant de la monocoque devra être obligatoirement pas plus haut que 525 mm. Ce qui fait qu'à partir du cockpit, la carrosserie va plonger en avant, obligatoirement, pour favoriser un nez plus bas. Et le nez lui-même, l'extrémité du nez, conjointement avec ces changements, pourra pas être au-dessus de 185 mm au-dessus du plan de référence. Alors ça correspond à quoi à peu près? Ça correspond à peu près à 10 cm au-dessus de l'aileron avant. Ce qui fait que tu auras une dizaine les mâts d'aileron avant feront une dizaine de centimètres de hauteur et donc le nez sera beaucoup beaucoup plus bas.
Sur ce point-là, est-ce qu'on peut le comparer par exemple à des anciennes voitures?
Alors justement, les voitures en 2014 ressembleront grosso modo à la Brown de 2009. Parce que le nez de la Brown était assez bas et la voiture était plus courte. Je vais aborder ce point directement. Les voitures vont être plus courtes. Alors ça c'est pas une réglementation qui dicte ça manu militari, mais c'est les conséquences de l'introduction d'un moteur un peu plus petit, un peu plus compact, et surtout de la réduction de la taille des réservoirs, parce que les moteurs d'une consommeront moins automatiquement, et surtout on parle d'une réduction de la quantité d'essence qu'on peut utilisé en course à 100 kg, alors c'est pas officiel encore, mais apparemment c'est en discussion. Donc s'il fait des réservoirs plus petits, alors j'ai pas de chiffres actuels sur les réservoirs, ni de chiffres de 2014, mais en tout cas, en tout, avec ça, avec le moteur et avec les réservoirs, la longueur des voitures risque de baisser d'une vingtaine de centimètres. Ce qui fait qu'effectivement, les voitures 2014 ressembleront grosso modo à la Braun de 2009, parce qu'elle avait un nez bas, et comme c'était avant l'interdiction des ravitaillements en course, ben elle avait un petit réservoir, donc elle était beaucoup plus compacte à l'arrière. Après, les autres différences au niveau des ailerons, déjà l'aileron avant sera un peu moins large, alors pas dans les dispositions qui étaient avant 2008. Avant 2008, c'était 140 cm. En 2009, on est passé à 1m80, ce qui est la largeur totale de la voiture. Donc c'est pour ça que l'aileron avant arrive en face des pneus, quoi, en fait, si on regarde la voiture de face. Et donc en 2014, ce sera 165 cm, donc on va raboter 7,5 cm de chaque côté. Pour avoir vu ce que ça donne visuellement, le changement va être moins important qu'en 2009, mais ce sera un peu choquant au départ, mais ce sera moins que ce qu'on a connu en 2009, quoi. Disons qu'on revient dans le bon sens sur les proportions. Le problème, c'est que l'aileron arrière, lui, en largeur, ne change pas. Donc on a toujours un petit aileron arrière avec un aileron avant un peu moins large, mais pas aussi étroit qu'en 2008. Et du coup, le fait de réduire la largeur de l'aileron avant, ça fait que on pourra pas travailler sur le flux qui passe de part et d'autre de la monoplace à l'extérieur du pneu, parce qu'on pourra pas mettre de carrosserie en face des... C'est-à-dire que le pneu fera beaucoup plus de turbulence sur l'air qu'auparavant, parce qu'avant, on pouvait mettre de la carrosserie devant le pneu pour les limiter. Ouais, voilà, pour dévier, pour influer sur le flux d'air. Et enfin, les modifications sur l'aileron arrière. Donc on a les deux plans qui sont en hauteur où il y a tous les gros sponsors qui la zone où ils pourront être sera un peu réduite de 2 cm en hauteur, alors c'est pas énorme. D'autant plus que certaines écuries ont des ailerons assez petits par rapport à la concurrence, ils exploitent pas toute la zone à laquelle ils ont le droit pour l'aileron arrière. Et en dessous, entre le diffuseur et l'aileron, on a un petit plan d'aileron aussi qui est autorisé jusqu'ici, ce qu'on appelle le beamwing, qui va être interdit, donc il y aura moins de... C'est un plan d'aileron qui travaillait de pair avec le diffuseur, en fait, qui permet d'un peu mieux extraire l'air du diffuseur. Donc, ce qui fait que, comme on va le supprimer, ben, il y aura moins d'appui, il y aura peut-être un peu plus de traînée. Et surtout, c'est une partie de l'aileron arrière qui permettait un peu de faire support sur les plans d'aileron supérieur. Donc, du coup, ce qui va se passer quand on le supprime, on risque de voir apparaître des mâts d'ailerons au milieu, comme on avait déjà pu voir il y a quelques années, parce que les montants des ailerons sont pas forcément assez forts pour supporter les charges aérodynamiques de l'aileron. Sachant aussi que dans les modifications qui sont pas dictées par le règlement, mais par l'adoption des moteurs, on a eu une déclaration de Niue à Barcelone qui a parlé de pontons qui seront un peu plus grands, parce que les V6 nécessitent plus de refroidissement que les V8, donc les ouvertures, les entrées d'air pour les radiateurs seront plus grandes, donc les pontons seront un peu plus massifs.
Voilà, globalement, faut s'imaginer donc des Braun avec un aileron avant un petit peu plus étroit. Après, peut-être des ailerons, peut-être des pontons, hein, peut-être aussi un petit peu plus larges. Voilà. Mais donc au final, quand même, on va vraiment voir une différence visuelle entre les 2014 et les 2013.
Il y a une petite différence visuelle.
Notamment au niveau du nez avant qui va replonger un peu à l'ancienne.
Et de l'aileron qui est plus étroit.
Et encore, ils sont allés, ils ne sont pas allés aussi loin que des choses qui avaient circulé, des idées. À un moment, on avait parlé du retour des jupes, de l'effet de
sol.
Oui,
donc ça avait été évoqué. Ça a jamais été mis dans la première version du règlement. Mmh. Ce qu'il y avait dans la première version du règlement, de mémoire, on avait parlé de, en fait, dans les écopes de frein à l'arrière, ils se servent de l'espace où on peut mettre les écopes de frein pour mettre des petites ailes, en fait, des petites ailettes. Et on avait parlé de réduire, de les interdire carrément, et ça n'a pas été fait. Ils sont revenus en arrière, il y a eu un retour en arrière sur les règles pour diverses raisons. Je crois que on en est parlé fin 2012, je crois, que les écuries s'étaient plaintes qu'il y avait trop de changements en même temps et que donc il fallait faire revenir en arrière sur certaines choses. Et donc effectivement, à ce niveau-là, il y a eu des changements. Et il y avait aussi le fait que la monocoque devait être 5 cm plus haute que les monocoques actuelles. Ça, je sais pas exactement pourquoi c'était là au départ et pourquoi ça a été enlevé par la suite, parce que ça, ils sont revenus en arrière là-dessus aussi.
Est-ce qu'ils imaginaient pas mettre des batteries dessous et donc surélever la monocoque ou...
Peut-être, je sais pas. En tout cas, les batteries, ce qui est sûr, elles vont être incluses dans la monocoque, ce qui est pas le cas actuellement des batteries du CAIR. Tu peux les mettre n'importe où, alors que maintenant, il faut qu'elles soient protégées derrière les structures d'absorption des chocs, etc.
J'aurais peut-être une dernière question. Est-ce qu'il t'a semblé, par rapport aux voitures qu'on a cette année, qu'il y en a déjà qui commencent, on va dire, à ressembler un peu à ce qu'on va avoir l'an prochain, ou pas du tout? Non, parce que c'est vrai, on peut se dire, est-ce qu'ils commencent pas déjà, dans les limites actuelles du règlement, à...
Bah, en tout cas, s'il y a deux écuries qui travaillent peut-être plus sur 2014 que les autres, c'est Ferrari et McLaren, par rapport à la suspension à tirant. Comme on a pu l'expliquer à plusieurs reprises, le fait d'avoir une monocoque un peu plus basse à l'avant de la monocoque, en tout cas, ça donne plus de latitude à la suspension à tirant qu'à une suspension à poussoir. L'angle du tirant ou du poussoir est plus important, donc ça marche un peu mieux. Ben, étonnamment, les monoplaces, ils sont les plus proches de 2013 parmi celles qui existent aujourd'hui. C'est la Marussia, quoi, parce qu'elle a un nez
qui est plongeant
directement. Donc oui, ce serait plutôt la Marussia, mais après, est-ce qu'ils auront les moyens de...
Oui. Non, mais voilà, c'était intéressant quand même de se poser la question. On a aussi, comme chaque semaine, on a notre petit message d'Adelin.
Il faut faire un jingle.
Un jingle chanté, comme à la grande époque de la grosse émission.
La question d'Adelin, waouh.
La question d'Adelin. Sacré Adelin.
Salut à tous, cette semaine ma question va porter sur les motoristes. Selon vous, quelles seront les alliances écurie-motoriste pour 2014? À bientôt.
Ok. Il évoque 2014, mais on peut même aller plus loin, parce qu'on voit bien que McLaren Honda, ça sera 2015. Donc pareil, hein, je vous propose un petit tour des équipes, hein, et on va voir hein, quels seraient les duos châssis-moteur qu'on pourrait avoir. Bon, par défaut, je vais quand même mettre de côté Mercedes et Ferrari. Oui, c'est vrai, Ferrari-Renault, pourquoi pas?
Bah oui, parce que...
Pourquoi?
Une Mercedes-Ferrari et une Ferrari-Mercedes, oui. Ça a de la gueule quand même.
Mercedes Honda.
Bah, ça sera
ce serait la fusion, quoi, la fusion ultime.
Alors commençons par Red Bull. Red Bull actuellement ils sont chez Renault. Est-ce que vous les voyez quitter Renault un jour à plus ou moins long terme?
Alors on sait ce que valent les contrats en F1, mais ils ont un contrat jusqu'à fin 2016, je crois, avec en plus des rabais sur les moteurs. Donc pour l'instant ça ils s'entendent bien, quoi.
Je pense. En plus faut pas oublier que Niue s'est battu pour que Red Bull ait un moteur Renault. Hein, dès le départ.
Oui, dès le départ, en plus.
Je pense en effet qu'ils n'ont pas à se plaindre du moteur Renault quand même. Les alternateurs, un peu plus, mais les moteurs Renault, je crois qu'il n'y a pas de souci vu les résultats qu'ils ont depuis 3 ans. Après, il y a toujours la possibilité, mais c'est pas un changement de moteur, c'est peut-être un ce qu'on appelle un rebadgeage. Hein, ça, on le dit, voilà, pourquoi pas, oui. Red Bull Infinity, mais ça serait un moteur Renault. Voilà, ça paraît le plus logique.
Ouais, ouais.
Donc McLaren, hein, on le sait, donc l'an prochain, ça sera Mercedes, dans 2 ans, ça sera Honda. S'ils sont pas dingues, ils devraient quand même rester chez Honda quand même un certain nombre d'années.
Comment couler les investissements de Honda, tu sais. Ouais, on va rester un an, bah, mais bon...
Si le moteur Honda n'est pas un moteur Peugeot, normalement, tout devrait bien se passer.
Oui.
Ouais. Ça fait beau, ouais, oui. C'est vrai.
Oui, quand même.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non.
C'est arrivé. Ça peut arriver. C'est arrivé. Ils étaient très fiers d'avoir un moteur Peugeot chez McLaren. Ensuite, peut-être un cas plus intéressant, c'est Lotus.
Ouais.
Donc, qui est actuellement chez Renault. A priori, l'an prochain, ça devrait être Renault, ça, y a pas de souci. Mais sur le long terme, c'est un des noms qui circule, au cas où Honda pourrait être intéressé, vers un autre constructeur. Aujourd'hui, on sait que les attaches entre Lotus et Renault, comme tu l'as dit, c'est génie le propriétaire. C'est deux entités séparées maintenant, bien séparées.
Bah, c'est vrai que c'est la structure qui semble, parce que je sais pas. Alors après, je suis pas spécialiste, mais j'imagine que fournir un seul moteur, c'est peut-être, ça me paraît un peu risqué financièrement.
Déjà, oui, tu peux pas amortir tes investissements.
Donc, qui pourrait être une cible de choix, effectivement, quand tu sais qu'en plus, quand tu sais que Renault pourrait avoir d'autres partenaires, Lotus, ça paraît être une solution qui serait pas inenvisageable.
C'est une belle cible pour Honda, parce que ça, vous le dire, ça serait une deuxième d'Optime, quoi.
Et puis Lotus Honda, alors même si c'est plus la même écurie que la Lotus d'antan,
c'est aussi de l'historique.
Ouais.
Il y a des connexions.
Il y a des connexions.
Ouais.
Et sinon, a priori, s'il ne restait pas chez Renault, on parle de Honda, est-ce qu'on pourrait imaginer autre chose, par contre?
Lotus Ferrari pour Colin Chapman.
Ouais.
Salut l'artiste.
Lotus Mercedes, non, ça parle moins, ça c'est sûr.
Mais Mercedes, ça parle tellement pas que, même Force India Mercedes, tu dis, mais Mercedes, c'est McLaren, quoi. Enfin,
ouais, mais c'est vrai, en plus.
Mercedes est tellement lié à McLaren que toute association autre que McLaren, ça paraît surprenant, en fait.
Mais tu sais qu'en plus, tout à l'heure, je cherchais quelle était l'écurie de pointe qui avait un moteur Mercedes. Tu sais, j'étais comme ça, mais attends, il n'y a plus d'écurie de pointe, quoi, moteur Mercedes.
Sinon, Sauber, donc, est chez Ferrari, hein, depuis qu'ils sont redevenus indépendants. C'est aussi l'autre nom qui circule en cas de d'autres écuries Honda. Ça paraît étonnant.
Enfin, je sais pas, ça me paraît.
Mais Mercedes aussi ne serait pas idiot.
Oui, ça a une histoire là aussi. Mais après, le truc, c'est qu'on, là-dessus, on prend du côté de l'équipe qui recevrait le moteur, mais il faut penser au constructeur du moteur aussi. Peut-être qu'il y en a qui, je pense à Ferrari, mais c'est clairement un moyen de réduire les coûts de fournir le moteur. Ce qui, voilà, il y aura peut-être des discussions, des gestes qui seront faits pour qu'ils conservent Sauber, parce que Sauber...
Pour vous, il y a plus de chances que Sauber reste chez Ferrari, que Ferrari, justement, voulant une deuxième équipe, va tout faire pour que Sauber garde le Ferrari?
Bah, instinctivement, je dirais oui, moi, mais...
Ferrari, aujourd'hui, ils ont Sauber, ils ont Toro Rosso, ils risquent de les perdre. Oui. On parle de Marussia, avoir Ferrari en écurie 1 et Marussia en écurie 2, s'il faut en garder que 2,
ouais.
Ça semble quand même précaire.
Ouais, clairement.
Pour vous, Sauber Ferrari, ça risque de continuer. Force India, donc ils sont chez Mercedes.
Mais eux, ils n'avaient pas parlé de... C'était toujours cette discussion sur Bianchi.
Ah bah oui, forcément.
Il viendrait avec le moteur, mais là, du coup, les cartes sont un peu rebattues, quoi.
Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt du genre à rester chez Mercedes, surtout là, maintenant que ça va devenir la deuxième équipe.
Oui.
Mercedes.
Force India Tata.
Ouais. On reste sur du Force India Mercedes, sur le long terme. Williams qui est chez Renault. C'est aussi un des noms qui est évoqué pour Honda.
Et pour Mercedes, apparemment.
Et pour Mercedes, pourquoi pas.
Bah là encore, c'est l'historique. Quoi.
Oui. Ouais.
Ça fait beaucoup d'écuries historiques.
Il n'y a que Ferrari qui n'a pas d'historique, en fait, de leur position. Il n'y a qu'à partir de Sauber qu'ils ont... peut-être Minardi aussi, avant Sauber, ils ont peut-être fourni des moteurs pour Minardi, je ne sais plus exactement, mais en fait, ils n'ont pas d'historique. Ils ont d'historique avec personne parce qu'ils n'ont jamais fourni de moteur avant les années 90.
Avant, Sauber notamment. William, donc pour vous, susceptible de changer ou de rester, parce qu'après tout, a priori, c'est pas le moteur Renault qui pose problème sur la Williams.
Non.
Ouais, c'est sûr. Bah après, s'ils veulent changer, à mon avis, ce serait... Enfin bon, faut pas dire ça quand tu vois McLaren, mais à mon avis, s'ils veulent changer, c'est maintenant et c'est Mercedes.
Ouais.
Enfin voilà, ils travaillent dessus et ce sera l'année prochaine.
Puis ce serait pas plus mal aussi pour eux de rester chez Renault, parce que c'est vrai qu'ils ont eu du Cosworth, ils ont eu du Toyota,
C'est vrai qu'ils ont vadrouillé.
Ils ont vadrouillé, ouais.
Mec, si tu prends 2005, 2006, 2007, BMW, Cosworth, Toyota, peut-être encore une année de Toyota, ils sont revenus au Cosworth.
Puis Renault,
oui, c'est vrai
que... Ça fait beaucoup, quand même.
Faut stabiliser un peu tout ça, quand même.
Alors, Toro Rosso, on sait que c'est une volonté de l'équipe. Il se pourrait, d'ailleurs, il y a des choses qui sont sorties, je pense même que c'est aujourd'hui, il dit qu'il pourrait y avoir une annonce officielle. Il pourrait, en effet, il est très probable qu'il passe chez Renault, parce que, bien évidemment, il y a beaucoup d'équipements comme la boîte qui pourra être récupérée de chez Red Bull, donc économie. Pour vous, c'est acté, Toro Rosso Renault, l'an prochain.
C'est logique, en plus, c'est pas dans l'intérêt de Ferrari d'avoir l'écurie satellite de son plus grand concurrent qui ait des infos sur son moteur, quoi. Ça pouvait pas continuer au-delà du gel des moteurs actuels.
Ce qui confirmerait encore plus le fait que Red Bull reste avec Renault, forcément.
Oui, et puis que Red Bull reste Red Bull, quoi.
Oui.
Que, voilà, que de ce côté-là, on a toujours pas réglé ce problème.
Ensuite, Caterham, donc ils sont avec Renault. Là, ça paraît plus probable parce que faut pas.
Oui, Alpine.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que entre Caterham et Renault, il y a quand même, pourquoi pas être badgé, pas l'oublier, la société Caterham possède 50% de la société Alpine. Donc les accords et les liens entre Caterham et Renault sont beaucoup plus forts que simplement un moteur. Je pense que c'est pas demain la veille qu'ils vont avoir maintenant, surtout là encore c'est pareil, a priori c'est pas le moteur le problème, c'est la voiture. ça devrait rester même encore assez longtemps Renault. Et donc la dernière, celle qui de facto va devoir trouver un moteur.
Ah bah oui.
Marussia. Et eux, ils ont annoncé le choix, c'est a priori entre Ferrari et Mercedes.
Prends ça, Renault.
Sans doute trop cher pour eux, hein.
Oui, il y a cette histoire de réunion entre Bernie Ecclestone et Carlos Ghosn, comme quoi le Renault serait le plus cher des trois, il serait trop cher et il faudrait qu'il soit baissé.
Je crois qu'on parle de 25 millions pour le Renault, oui. Alors que les autres seraient plus de l'ordre de 20 millions.
Ce qui me semble est déjà 20 millions est beaucoup par rapport au moteur actuel apparemment. Je crois que on parlait de 6 ou 7 millions, je crois, pour les moteurs actuels pour une fourniture sur une année. Hein.
Après, ça se négocie.
C'est énorme.
Ça se négocie, et faut pas oublier que chez Marussia, il y a Jules Bianchi qui roule.
Ouais, bah oui, c'est... Bah, faudra voir où est Bianchi l'année prochaine, mais effectivement, s'il est chez Marussia, il y a de grandes chances que ce soit Ferrari, ça c'est sûr.
Sachant que, alors en plus, Marussia, ils ont pas des accords techniques avec McLaren.
Oui, mais c'est ça, mais c'est souvent, enfin, tout le monde a des accords avec un peu tout le monde. Force India avec Mercedes,
C'est des vrais patchwork, les voitures. Ce qui pourrait aussi expliquer la théorie Marussia-Honda, c'est que, limite... Vu qu'il y a des
bah ouais, mais qu'est-ce qu'ils font
McLaren.
En 2014 à pédale.
Bah voilà, de toute façon, on verra pas trop la différence. Donc,
ça se tente.
Donc voilà, on a fait le tour. Hein. Donc au final, pas forcément beaucoup... Enfin, c'est-à-dire que autant ça peut peu changer, finalement, autant ça peut beaucoup changer.
Donc, ouais, tu vois, là, on aura bien répondu à ta question.
Non, mais c'est vrai que l'arrivée de Honda, ça risque de bousculer beaucoup de cartes.
Effectivement.
On vous rappelle, hein, bien évidemment, même si on ne t'oublie pas, Quentin, donc on a déjà une question au répondeur, hein, bien au chaud. Hein. Mais hein, si vous voulez nous poser des questions au répondeur, il y a deux façons. Soit vous allez sur le site savf1.fr et vous nous laissez un extrait de votre belle voix. Hein, ou sinon, si vous ne voulez pas parler, il y a le mail, hein, répondeur@savf1.fr. On vous rappelle hein, qu'il y a un concours. Et n'oubliez pas, cette semaine, c'est un beau cadeau. Un très très beau cadeau. Un casque réplica échelle 1,5 de Jenson Button, quand même. Hmm. Quand même la classe.
Et quelle était la question, Dino?
Non, moi je l'ai bien entendu, hein. Mais quand tu dis Dino, voilà, ça me blesse.
Qu'est-ce qui nous manque, hein.
Non, la question de la semaine, elle parle de Pastor Maldonado. Pastor qui a fait ses 5 meilleurs résultats de toute sa carrière en F1 en 2012, donc sur 5 circuits différents. Et la question, c'est quelles lettres ont en commun les villes où se sont passés les 5 meilleurs résultats de Pastor Maldonado?
Comme quoi, quand on fait un mauvais choix, on est puni, hein, Dino?
C'est quoi cette question? J'ai pas entendu la fin de l'émission.
Tu aurais dû.
Si... Oui, je vois ça.
Si vous voulez répondre, n'oubliez pas de nous envoyer donc la réponse à concours@savf1.fr en n'oubliant pas, parce que j'ai reçu un cas comme ça, mais... Je lui ai envoyé un mail, comme. En n'oubliant pas de nous renvoyer avec une question, avec sa réponse, qu'on puisse la tirer au sort, et peut-être, hein, vous aurez la chance de gagner, quand même, ce joli lot, hein, quand même, on a décidé de vous gâter pour ce Grand Prix de Monaco. On vous rappelle, hein, que si vous souhaitez participer aux émissions, notamment les émissions d'après-course, alors je pourrais pas vous dire s'il y a des places, parce que c'est Dino qui fait le planning, donc... Mais
si on a du mal à le joindre.
Oui, on a du mal à le joindre. Mais si vous voulez participer, il suffit d'envoyer un mail à contact@savf1.fr. Vous aurez peut-être la chance de revenir sur un beau Grand Prix, ou un Grand Prix où on s'est fait chier, c'est aussi possible, ça arrive. Mais vous passerez un bon moment avec nous. Allez, on vous rappelle aussi hein, qu'on est sur les tout plein de réseaux. Le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, que c'est sur Facebook, que c'est sur Twitter. Hein. Twitter, n'oubliez pas, il y a le hashtag SAVF1 et il y a nos différents comptes Twitter qui ne sont plus suspendus. Enfin, le compte de Dino, en tout cas, n'est plus suspendu. Et que vous pouvez retrouver les comptes, en fait, sur le site savf1.fr, hein, tout en haut de la page, il y a les liens vers nos différents comptes Twitter, où on parle de plein de trucs, et pas forcément
oui,
de F1.
D'ailleurs, c'est en général pas de F1.
Oui.
Pendant les Grands Prix, peut-être.
Oui, pendant les Grands Prix, oui. Pendant le reste... C'est dommage que j'enregistre, sinon vous auriez eu plein de tweets sur la Xbox. Et on vous rappelle, comme d'habitude, que la F1 sur Internet, c'est sur...
NF1.com.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
La famille.
Gratuit, la famille, c'est le Ritz des podcasts. C'est en couleur.
Oui, c'est en couleur, c'est gratuit, c'est le Ritz des podcasts. Enfin, c'est la folie, enfin, c'est plein de trucs, le SAV de la F1.
C'est Brasil.
Ah non, le Brasil, c'est au mois de novembre.
Quel bel accent.
Ah, tout de suite, ah, là, je le garde gars, pour, hein, je garde pour la fin
là,
de saison.
Là, c'est pas Brésil, c'est on se gèle les couilles à Monaco. Hein,
ah, c'est comme un ouragan.
Oh, oh, c'est magnifique.
C'est ça de gagner les ta gueule.
Un jour, je le gagnerai. Je suis pas en forme, mais un jour, je le gagnerai. Je vous promets.
On arrive à la fin de cette émission. On vous rappelle que ce week-end, dès jeudi, c'est le Grand Prix de Monaco.
Il y aura la Batmobile.
Il y aura la Batmobile.
Mais juste jeudi, hein. Parce qu'après, ils vont faire la fête et tout ça. Vous savez, c'est le Gumball. Ils ont plein de fric et tout. Et ils roulent à 250 et parfois, ils renversent des gens. Ça, c'est un peu plus triste.
Eh bien, on finit sur une bonne note.
Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Allez, sur ce, on vous souhaite un bon Grand Prix de Monaco à tous. Messieurs, un dernier petit mot.
Backflip.
Gus Gus.
Je cherche, je cherche.
Eh bien, moi, ce sera... couvre-feu.
Ce sera un CD-ROM.
Vous vous rendez compte, il cherche, je veux dire. Le truc, c'est...
le mec qui a regardé, qui a tourné la tête de 2 degrés.
C'est quand même, c'est quand même le truc le plus con au monde. C'est juste de dire un mot. Il peut dire tractopelle, il peut dire, je sais pas, moi, shaker.
J'étais complètement à plat. J'ai tout déconnecté.
Et le team, il... Bon, hein. Allez, sur ce, ciao à tous.
Au revoir.
Salut.
And it's lights out, and away we go.